commence, je le sais. Chers amis, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Pour la première fois, je me produis devant le public de Sartène. J'ai un peu le tract et tout ça, mais ça va bien. Tout va bien aller, Bezrat Hashem. Vous savez, on vit des moments très difficiles. Et moi, je regrette qu'on ne soit pas nombreux, pas pour mon kavod amo, mais pour ceux qui sont en détresse et qui sont entre la vie et la mort. Comme vous savez, il y a des jeunes qui sont entre la vie et la mort. Ces derniers jours, il y a eu des grandes catastrophes qui sont arrivées dans le Ham Israël. Il y a un garçon, quand je viens d'atterrir en Israël, on m'a appelé directement de Marseille pour me dire qu'il y avait une sorte de meeting de solidarité où ils ont fait des tfilotes et tout ça. Ils ont fait une soirée de l'Itore Route pour un garçon qui est tombé malheureusement au ski. Il est parti avec des gens de Merkaz Alimout, c'est un centre d'études pour les jeunes à Marseille et tout ça. Et malheureusement, il est tombé et il s'est fait une hémorragie cérébrale. Et son état est encore malheureusement incertain. Il est dans une situation très difficile. Et le lendemain, j'ai entendu qu'il y a un jeune garçon de Paris aussi qui est tombé de 30 mètres de haut d'un balcon qui s'est effondré. Et donc, moi, j'ai un peu de tsar ce soir parce que je pense que la moindre des choses qu'on doit aux gens, c'est d'être avec eux et de les soutenir. Voilà. Si jamais on avait été dans leur situation, on aurait bien voulu qu'il y ait des gens qui viennent étudier pour notre réponse au cinéma, de se renforcer, d'être ensemble et tout ça. C'est juste pour ça, mais pour le kavod et tout ça, moi je suis prêt à parler avec deux. Juste s'il y avait eu Rabbi Rachamim et son père qui étaient là, ça m'aurait suffi. J'aurais parlé avec eux toute la nuit. Alors maintenant, alors Rabbi Kama et Kama, plus fort de raison, quand je vois tous ces visages merveilleux qui sont là, ça me fait tellement plaisir que je vais vous dire un shiur, Bezrat Hashem, de tout mon cœur, comme si jamais il y avait eu 300 personnes. C'est la même chose pour moi. Alors Bezrat Hashem, que ces paroles, elles soient pour la réfoua chez les mains de Jérémie Nissim ben Michel Fortuné, réfoua chez les mains chez Raphaël Moshe ben Brigitte Freha, Yaakov ben Yamna, que ce soit l'île Nishmat Avimori Machlou ben Shabazora, Bezrat Hashem, mon papa, Lava Shalom, Yitzhak ben Simcha, et Ginette Danduna Batester. Bezrat Hashem, que le sprout de cette étude, elle rejaillisse aussi sur tous les membres du Ham Israël, qu'on fasse tous ses chouvas et qu'on soit, Bezrat Hashem, méritant de voir le troisième Beit HaMikdash, Bimerabi Amenu, Bezrat Hashem. Hafetz Chaim, il disait, dans une lettre qu'il a écrite en 56-64, ça veut dire il y a plus de 100 ans, puisqu'on est en 100 ans, on est en 57-70 maintenant. Il a écrit une lettre juste avant la guerre, et il a dit que vu les grandes persécutions qui se préparaient contre les armes d'Israël, il fallait qu'il y ait un éveil spirituel qui se fasse pour qu'on puisse lutter contre les forces du mal et contre toutes les personnes qui voulaient lutter contre nous. Et il a vu, il a décrit, il a prévu qu'il y aurait la Shoah qui allait arriver, tout ça. Personne ne voulait l'écouter. Les gens, ils se disaient, comment ça, une Shoah, c'est pas possible. On est les plus grands patrons, on est les plus grands banquiers, on est les plus grands avocats, on est les plus grands politiciens, on dirige le monde. C'est par nous, les peuples d'Israël, que le monde se dirige. Les Juifs, on est les mieux placés en Allemagne et tout ça. Qui c'est qui pourrait nous détrôner? Qui c'est qui pourrait faire quelque chose contre nous? C'est impossible, une chose pareille. Et malheureusement, la prophétie du Hafetz Chaim s'est accomplie. Et quelque temps avant cette guerre, il a appelé les Bnei Israël, comme il a vu qu'il y avait des grandes xérotes qui planaient sur le peuple juif. Il a appelé les gens à se mobiliser dans les Batei Knessiot et les Batei Midrashot, dans les synagogues, pour qu'il y ait des femmes, des enfants et des hommes qui se réunissent aux trois tfilotes pour crier Amen Yeshem Rabba dans le Kaddish, qu'on sait que ça peut déchirer des grérotes sur 70 ans. C'est 70 ans, on avait pris la Gemara dans Maseret Shabbat à la page 119. Elle dit qu'il y avait Amarab Yehoshua Ben Levi, tout celui qui dit Amen Yeshem Rabba de toutes ses forces, les garçons, les filles, les enfants, ils crient, ils supplient vers Akadosh Baruch Hu de toute leur force. Il dit, même s'il y avait un décret négatif sur le peuple d'Israël 70 ans auparavant, Akadosh Baruch Hu, il pourrait déchirer le décret par le mérite de cette voix qui remonte vers Hachem. Et de la même façon, celui qui répond Baruch Hu et Hachem me voir, tous ces yanim de Kiddush Hachem, de sanctifier le nom de Dieu, de grandir le Gvot Malchut Shamaim dans le monde, ça c'est des choses qui suscitent la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est très simple, Rabotai. Parce qu'on montre qu'on a pris conscience que c'est Akadosh Baruch Hu Ish Milchama Hashem Shemo. C'est lui le patron de la guerre, c'est lui qui a toutes les armes en main. Et si toi tu te lèves pour crier contre lui, Alors ça montre que tu as compris que c'est lui le dirigeant de l'univers. Alors là, Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, c'est sûr qu'il va te répondre. Mais si toi, tu crois que dès qu'il y a des tzaras, tu dois commencer à prendre tes armes, à prendre ton armure, à prendre là-bas ton arbalète, hal tarzan et tout ça, tu vas commencer à faire toutes sortes de feintes et tout ça, c'est pas possible. Habibi, on est en train de te parler. Toi, tu crois que tu vas t'armer avec la bombe nucléaire, tu vas être à l'abri des problèmes. Rien d'avoir casé. Si j'ai Kadosh Baruch Hu avec moi, je suis protégé. Si j'ai pas Hachem, qu'est-ce que... Hachem li velodira maya seli adam. Si Hachem est avec moi, qu'est-ce que me ferait l'homme? J'ai pas peur. Je peux pas trembler parce que j'ai un Kadosh Baruch Hu. Mais si j'ai pas Hachem avec moi, je vais avoir toutes les armes du monde, je pourrais rien faire. Ça, Chafetz Chaim, il leur a dit, renforcez-vous dans la tfila, amenez tous les gens que vous connaissez, même des gens qui sont loin de la Torah, des gens qui comprennent pas ce qui se passe, amenez-les à la synagogue et juste apprenez-leur à dire Amen, Yeshemé, Rabba, Mevarach, sanctifier, grandir le nom d'Hachem. Alors vous savez, je sais pas si vous avez, j'ai dit un peu, cette semaine j'ai tourné un peu partout, j'ai dit des shiurim dans le 16e arrondissement et à Créteil, et je vais partir après à Londres, à Marseille, à Toulouse, un peu partout pour aller diffuser un peu la Torah à nos frères du clan Israël, parce que c'est important de véhiculer le message et la fougue qu'on a reçue de nos maîtres, c'est très important. On a reçu une lumière tellement intense qu'on veut la faire partager au maximum des personnes, c'est, la Torah elle est merveilleuse. J'ai parlé un peu sur la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Combien on doit être reconnaissant d'être les enfants d'Hachem, Rabotai, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand tu sais que tu peux, toi, la petite virgule, le petit point dans l'océan, la petite poussière du monde, tu as le mérite de dire Amen Yeshemé Rabba, It Gadal, Veit Kadash, Yeshemé Rabba. Tu as le strout de faire la louange d'Akadosh beaucoup dans toute l'humanité. Que la Gemara dans Maseret Chagiga, elle dit que quand il y a les enfants d'Israël qui commencent à chanter, ils sont en train de dire une bracha, ils sont en train de dire une fila. Hachem, il fait taire tous les anges de la symphonie de l'humanité, il les fait taire. Alors que eux, ils ont des voix, celui qui l'écoute, il peut à la macom, il peut s'endormir sur place. Il peut s'évanouir tellement, c'est magnifique, la voix d'un ange. Vous imaginez ce que ça va. Et nous, on a une voix de crapaud là-bas, le Kermit, la grenouille, je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle. Il connaît parce que c'était une ancienne grenouille, vous n'étiez pas encore né. C'est les bébés de chaud, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est trop vieux pour vous. Alors, donc, vous aussi, vous avez compris là, les histoires de Kermit. Donc, vous comprenez, il dit la Kermit, tout ça, il chante une chanson, il est en train de chanter des choses et tout ça. Toi, tu chantes, et l'autre, il est en train de faire le plus belle symphonie du monde. Hachem, il leur dit taisez-vous tous. Il y a mon fils là-bas, Rabbi David, il y a ma fille là-bas, Sarah. J'allais dire Jennifer, mais c'est pas très sympa. Il a dit ma fille là-bas, elle est en train de chanter à Kadosh Baruch Hu, elle dit une louange à Hachem, il va. Viens, mon frère, c'est par ici que ça se passe. N'aie pas peur. Sois le bienvenu. On attendait que toi. Prends place. Alors vous comprenez, il dit on est en train de dire et tout ça. D'accord, mon frère. On va pas créer un quart de chinois avec ça. Les chinois juifs, bien sûr, ça n'existe pas, mais on peut les inventer ce soir pour vous. Alors vous comprenez, il dit tu vas commencer à dire une parole, et Akadosh Baruch Hu, il fait taire tout cela. Pourquoi? Parce que toi, tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu, tu es l'enfant d'Hachem, et toi, tu as le mérite de pouvoir parler à l'éternel et de sentir la louange d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il te fait taire le monde entier parce que toi, tu es en train de faire une bracha. Il dit, celui qui prend juste conscience de ça, quand il va faire cette fille-là, il va arrêter un peu de parler avec son patach Eliyahu et tout ça, il est en train de lui parler là-bas à son livre, il est en train de dire, il est en train de penser à Sefer Shbonot de Sefer là-bas, il fait des comptes, l'autre il se dit, ouais, il faut pas que j'oublie de dire à Jacqueline là-bas sur MSN Messenger et tout ça, ce qu'il faut faire après la prière et tout. Il fait des calculs avant, après, il comprend pas ce qui se passe, le gars, il est pas en train de comprendre qu'il a le sroud de parler avec le maître de l'univers. Il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi il est prêt à déchirer toutes les xérotes? Parce que là, tu prends conscience que lui c'est le patron de l'univers. Quand tu as compris que c'était lui, il te répond Allah Makom, Kadosh Baruch Hu, il est avec toi. Je voulais vous parler ce soir d'un inyan très important. J'ai fait des conférences un peu partout là, mais j'ai parlé sur la reconnaissance. Mais vous, je vois que vous avez une tête spéciale, je vais vous dire une conférence sur Emouna ou Bitachon, parce que je sens que ça peut vous faire du bien. Vous savez que l'épreuve de la fin des temps, c'est de croire en Hachem. Sadik Vemouna Toïchie, avec moi dans ma Maseret Makot, à la page Kav Dalet Amoud Aleph, elle dit que les Bnei Israël, ils ont commencé à savoir qu'est-ce qu'ils allaient garder à la fin des temps quand il y aurait ces grandes difficultés. Ils vont garder quelques mitzvot pour que toute la Torah soit maintenue. Parce qu'on va être dans les exils, on va être dans les difficultés, on va être dans le travail, on va être dans tout le zdaras de la vie et tout ça. Un homme, il va avoir toutes sortes de choses, il va être occupé. Il lui dit, Hatsheba Habakkuk, il est venu le dernier prophète Habakkuk, Ve'emida Alachat, il a concentré toute la Torah en une seule Alacha, Ve'tzadik Bemunato Yichye. Le tzadik, par sa foi, il vivra. Ça veut dire, celui qui est capable de garder la foi en Hachem, il peut garder toutes les autres mitzvot de la Torah. Et Rabotaï, la foi, c'est très difficile. Et nous, on croit, oui, on a la foi, et ça, on a le bracelet rouge, on fait le yu-yu et tout ça, on embrasse la menouza, on fait quelques petites bougies et tout ça, on appelle Baba Salé et le tien. Rabotaï, la foi, c'est quoi? La foi, elle se vérifie par rapport à la pratique. Quand est-ce que ça s'appelle que je suis un mamine complètement? Ben mamine, c'est quand il n'y a aucun décalage entre ce que la Torah me demande de faire et ce que je fais. Ça s'appelle que tu as la foi. Pourquoi? Parce que si jamais tu croyais que tu allais gagner 3 milliards au loto, tu aurais joué. Tu n'aurais pas dit oui, je crois que je vais gagner, mais en fait, ouais, je ne fais pas. Celui qui croit, il doit faire. Celui qui ne fait pas, ça veut dire qu'il a un problème dans sa Emouna et que sa Emouna, elle n'est pas complètement chez les mains. Pour ça, le Teilim dans Kouf Yutet, le Teilim 119, il dit Kol Mitzvotecha Emouna. David Ameler, il a dit aussi Kol Mitzvotecha Emouna. Toutes les mitzvot, c'est la Emouna. Parce qu'un homme, plus il a la Emouna, plus il peut faire toutes les mitzvot. Et à l'inverse, plus il fait toutes les mitzvot, et plus il peut avoir la Emouna. Parce que plus on recherche à Kadosh Boku, plus il se dévoile à nous. Plus on se cache d'Akadosh Baruch Hu, plus il se cache de nous. Donc il dit, si jamais tu veux te renforcer dans l'Emouna ou Bitachon à la fin des temps, c'est ce qui te permettra de pouvoir surmonter les épreuves de la fin des temps. Et vous savez, le Rav Elimelech Melizinsk, un grand tzaddik, c'était ça il y a 2 semaines à peu près, le Noam Elimelech, on l'appelle. Une fois, il a dit, c'est quoi Chevle Shel Mashiach? C'est quoi les épreuves et les douleurs du Mashiach? C'est que l'homme, il va se faire esquinter. Comme c'était le cas, vous vous rappelez, pendant l'Inquisition et tout ça. On a soumis le peuple d'Israël à des rudes traitements de défaveur. On les a pris et on les a écartelés, chas v'shalom. On leur a fait des choses qui sont terribles. Et on leur a dit, est-ce que vous voulez continuer à être juif? Ou est-ce que vous voulez mourir? Ou est-ce que vous voulez être chrétien? Et les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils ont répondu à ce moment-là? Tzadik be'munat l'Ikhir. Ils disent, moi je préfère mourir dans la vérité que de vivre dans le mensonge. Et ils ont été prêts à donner leur vie pour ça. Il dit, quelqu'un qui n'a pas une foi inébranlable et qui ne croit pas de tout son cœur à ça, qui c'est qui peut faire une chose pareille? C'est impossible. Si jamais tu as compris le sens de la vie, que tu as compris que ta vie n'a pas de sens si tu vis dans le mensonge. Il dit, mais tu vois tous les marboulim là-bas qui sont à Ibiza en train de danser, tout ça, ils font des sessions et tout ça, ils dansent avec le doigt vers le haut, toujours, et ça va, Jacqueline et tout, tu vas bien et tout. Ils boivent des diabolos, genre, on demande tout ça, ils boivent des gibets. Vous n'avez jamais vu pourquoi les gars, ils font toujours comme ça quand ils dansent. Parce qu'ils montrent ce qui va leur arriver quand ça arrive dans le ciel après. Ils vont devenir des shawarma, alors ils montrent ce qu'ils vont se faire déchirer. Vous comprenez? C'est une femme que j'ai trouvée à Londres. Quand j'étais à Londres, une fois, j'ai trouvé cette bonne femme et tout ça, alors je la fais partager aux amis, comme ça, ça leur rafraîchit les idées. Parce que sinon, ils vont devenir des shawarma, alors il faut les rafraîchir. Vous comprenez, Rabotaï, c'est le concept qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut vivre. Tzadik v'emunato yichir, c'est le concept de la fin des temps que l'homme, il dit le Rav Elimelech Melizinsk, on va lui donner des coups, on va le soumettre à rude épreuve, chas v'shalom, si ça se passe comme ça, malheureusement, et ça semble prendre ce chemin, malheureusement, vu comment on est parti et tout ça. Et moi, je ne suis pas venu pour faire un tableau catastrophique et tout ça, au contraire, vous allez voir ce que je vais vous dire dans quelques instants, ça va vous réchauffer le cœur. Mais il faut bien savoir là où on se dirige. Il ne faut pas être des Al-Mougli, le prince de la jungle là-bas et tout ça, et tu comprends même pas ce qui t'arrive, t'es en train de vivre les choses. Ah ouais, mais moi on m'a prévenu et tout ça, je vis mon judaïsme tranquille, je fais Yama Shishi devant la finale de la Coupe de l'UEFA que j'ai mis sur Showview et tout ça, ça s'allume sur Minuterie et tout ça. Et le gars, il vit un peu à l'ancienne comme ça, il est en train de composer un peu avec Dieu. Il vit TPS, canal satellite, la Torah à la carte. Ce qu'il fait, ce qu'il a envie de faire, il le fait, ce qu'il n'a pas envie de faire, il le fait pas, et il vit un peu comme ça, de façon mitigée comme ça. Il dit, Habibi, t'arrives à la fin des temps. Si ta Emouna c'est pas du béton, tu te fais esquinter. Si ta Emouna c'est du béton, tu peux réussir. Comme c'était le cas en Égypte. Vous avez vu, en Égypte, il y a 1/5 de gens qui sont sortis. Qui c'était ce 1/5? Rabotaï, les gens d'Égypte et les gens de la génération dans laquelle on est des gens qui sont bien plus perchés qu'eux. C'était des fils des Shevatim, les gars là-bas. C'était des Sadikim Goumourim, c'était des génies. Dis-nous comment on est des Mahboulim de la cité de Belleville, et là, on tourne dans les rues et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'on peut espérer être mieux qu'eux? Et pourtant, eux, il n'y a que 1/5 qui est sorti et 4/5, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi entière. Ils ont dit, comment on va faire dans le désert? Comment on va faire pour manger? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et tout ça. Ils disent, comment tu vas faire pour devenir? Et tout ça. D'accord, tu te poses trop de questions, alors toi, tu restes ici. Seulement celui qui avait une foi chez les mains à Kadosh Baruch Hu, il est sorti. Il dit, c'est pour ça, à la fin des temps, tzadik b'emunato yichir, le tzadik, par sa foi, il vivra. Notre maître, le Rav Moshe Kaplan, un grand tzadik, on a écrit Baruch Hashem, ce Sefer magnifique, s'appelle Quelques gouttes de lumière pour l'éternité. Celui qui veut boire un peu, je lui pourrais lui servir quelques verres après. C'est très sympa, c'est des gouttes de lumière. Ça se boit sans modération, comme on dit dans le milieu. Je pourrais vous montrer sa photo aussi parce qu'il est présent là-bas. Ce Rav Moshe Kaplan, il nous a expliqué un concept magnifique. Que, comme vous savez, on est en train de passer de la fête de Pessah, de Purim à la fête de Pessah. Et le message et le fil directeur, c'est le même. C'est le fil directeur de la Emouna et du Bitachon Bachem. Il dit, qu'est-ce que c'est? Vous savez, quand on est en train de lire la Megillah, juste après la Megillah, bonsoir. Quand on est en train de lire la Megillah et tout ça, à la fin de la Megillah, ça va mon ami? Ah, t'es bon, c'est magnifique. Ah non, t'es le meilleur. Il n'y a pas à dire. Bien sûr. Vous comprenez, quand on est en train de lire la Megillah, juste à la fin de la Megillah, on doit chanter un chant. Chez les Ashkenazim, ils chantent cette chanson. Ça s'appelle Shoshana Shel Yaakov Sa'ala Vesmecha. La rose de Yaakov, elle s'est réjouie, elle était très heureuse et tout ça. On peut se demander une question. Comment ça se fait qu'on est en train de parler de Yaakov dans la fête de Pourim? Qu'est-ce qu'il a avant Yaakov avec la fête de Pourim? On ne voit pas du tout la relation qu'il y a entre les deux. Et d'un autre côté, on voit qu'on va Bezrat Hashem bientôt vivre le Shabbat Agadol. La semaine prochaine, ça, il y aura le Shabbat Agadol. Et tous les Mefarshim se demandent comment c'est que ce Shabbat s'appelle Shabbat Agadol. Qu'est-ce qu'il a de plus grand que les autres Shabbatats de toute l'année? Et la réponse à cette question, elle est une. Elle est une, puisqu'on est dans la synagogue des Tunisiens de là-bas. Comme on dit chez nous. Si c'était la synagogue des Marocains, j'aurais pas pu dire cette fin, donc je suis très content qu'on soit descendu ici. Dans ce petit comité restreint de l'office des jeunes, tout ça. En plus, on est jeunes, et tout ça fait plaisir. Alors regardez. Les Bnei Israël, vous savez qu'à Pourim, ils ont fauté. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont eu, les Bnei Israël, à Pourim? Ils ont fauté dans la Emunat Rachamim. Ils n'ont pas eu la foi dans les sages. Mordechai à Yehudi, qui était le seul qui était Yehudi parmi toute cette tribu-là, les Bnei Israël, ils se sont détournés de la voie d'Akadash Boko, et lui, il est resté Yehudi, malgré le fait que les autres, ils ont voulu se détacher de leur religion juive. Lui, il est resté Mordechai à Yehudi, le juif. Ça veut dire le seul juif qu'il y avait là-bas. C'est-à-dire que tous les autres, ils sont sortis du judaïsme, mais lui, il est resté juif. Mordechai Yehudi, qu'est-ce qu'il leur a dit à Rabotai? Il leur a dit, mes enfants, faites attention, n'allez pas dans cette Séouda. N'allez pas dans cette Séouda d'Achashverosh, parce que si vous allez là-bas, il va y avoir des graves décrets qui vont être pris contre la communauté juive. Et les gars, qu'est-ce qu'ils se disaient? Ils disaient, mais c'est un marboule celui-là. Ils disent, si jamais on ne va pas dans cette manifestation, c'est un crime de lèse-majesté. Ils disent, ça veut dire, on va aller à contre-courant du pouvoir royal. Le pouvoir royal, il nous a invités, il est en train de faire la fête du trône et tout ça, tout le monde est convié, tout ça, tous les peuples, ils y vont, donc ils vont avoir la protection du roi et tout ça, parce qu'ils vont en prison du Kabbal. Et les Bnisraël, ils sont des bogdim, c'est des traîtres, personne ne va là-bas, c'est une rébellion collective. Ils disent, les gars, ils vont à la guillotine directement. Donc eux, ils se sont dit, c'est pas possible. Ce Chacham-là, il veut nous mettre dans une situation difficile. Et c'est un extrémiste, il veut de ne pas aller dans cette Séouda, alors qu'il y a des Hercherim, il y a la Kashrout là-bas, c'est séparé entre les hommes et les femmes et tout ça. Après, on a vu ce qui est arrivé. Vashti, elle est venue là-bas, très, très légèrement vêtue et tout ça. Tous ces bons calculs qu'ils avaient faits, ils se sont avérés être faux. Lui, Sarah, il t'attrape, il te fait croire, oui, c'est bon, là-bas, va là-bas, il y a des bons Hercherim, il y a des bons trucs et tout ça. Dis, si jamais tu vas contre les Gdoléador, sache une chose, c'est que tu perdras dans ta vie. Ce qu'ils t'ont dit, tu dois faire en sorte que même s'ils te disent que ta droite c'est ta gauche, et ta gauche c'est ta droite, tu dois être Mekabel Gava, tu dois faire la chose comme ils te disent et te considérer comme un aveugle. Il dit c'est comme ça, celui qui n'a pas la foi dans les sages, il ne peut pas réussir, c'est ce qu'on voit d'ici. Et donc les gars, ils sont allés au festin. Et le Rav Dessler, il nous explique dans un mamar extraordinaire sur Emunah Ubitachon et sur l'Ashgacha pratique, la providence divine individuelle et collective du peuple d'Israël. Il nous explique le Rav Dessler que 9 ans plus tard, 9 ans après ce festin, c'est à ce moment-là que les Bnei Israël ont été déportés et qu'on a fait la solution finale, qu'on a voulu les exterminer, tout ça. Rahman al-Islam. C'est à ce moment-là qu'ils les ont tués. Et c'était consécutif à quoi, ce décret-là? Au fait que Mordechai, à Yehudi, ce même Chacham là-bas qu'ils avaient pris pour un Mahmir, il a fait une Khumra de ne pas se prosterner devant ce Mzrob de Haman. Haman, il est venu et tout ça, et tout le monde se prosternait devant lui et tout ça. Et lui, il est resté là-bas, stoïque, à la statue de la liberté et tout ça. Comme ça, il a dit, tu bois l'eau, dis-le mort que tu bouges pas et tout ça. T'as qu'à, jusqu'à demain, tu essayes de me faire sortir par ici, mais je me prosternerai pas devant toi. Et alors, il a commencé à lui faire toutes sortes de trucs. Il a dit, je bouge pas d'ici. Il dit, là, tu veux faire le malin. Il dit, toi et tout ton peuple, on va vous exterminer. Abou Daï, nous dit le Rav Dessler, il dit, quelqu'un qui voit une chose pareille, il devient fou. Il dit, quoi? Il dit, c'est qui c'est qui a causé ce problème-là? Est-ce que c'est celui qui est celui qui a causé le problème de la déportation de tous les Bnei Israël et de la solution finale? Est-ce que c'est ce festin qu'on a vécu 9 ans plus tôt? À la 3e année du règne, c'était le festin, et à la 2e année du règne, c'était là où on a commencé à déporter les Bnei Israël, on a voulu les exterminer, c'est là où il y a eu la fête de Pourim. Est-ce que c'est ce festin qui a eu 9 ans plus tôt, ou est-ce que c'est ce massé là-bas de ce Mahmir de Mordechai qui nous a mis en danger et à cause de lui on a tous été exterminés? Dit n'importe qui voit avec ses yeux et qui fait un concept et un constat scientifique, là-bas, Hal le rationaliste là-bas, le cartésien et tout ça, il fait l'américain et tout, c'est lui. Il dit, il voit, ben, il n'y a pas de problème, c'est ça. Parce que Mordechai, c'est pas du tout parce qu'on n'est pas allé au festin. Au contraire, on est allé au festin, on a eu 9 ans de répit parce qu'on était bien avec le roi, on était gentil avec lui et tout ça, on est allé dans son sens. On est allé contre la Torah, mais en tout cas, on était sous la protection des gens qui étaient là, donc il n'y a pas de problème. Mais il dit, par contre, Mordechai qui s'est pas prosterné, c'est à cause de lui. À cause de lui, donc, il nous a mis en péril et tout ça. Et Rabodai, il s'est passé une chose, c'est que les Bnei Israël, que c'est un peuple de Maminim, Bnei Maminim, et un peuple de Tzadikim, ils ont fait tchouva. Ils ont fait tchouva parce que les Bnei Israël s'appellent les Yehudim. Les Yehudim, ça vient du Lachon Yehuda. Et Yehuda, ça vient du Lachon Oda, de la reconnaissance. Pourquoi on s'appelle le peuple Yehuda, Rabotai? Parce que nous, soyez le bienvenu, Rabbi. Vous pouvez venir, on vous aime tellement que vous êtes, vous pouvez venir tout de suite et tout ça. Après, je vous ferai une accolade. Vous voulez pas venir avec moi? Vous comprenez, les amis, on est en train de dire que on fait partie du peuple de Yehuda. Yehuda, ça vient du Lachon Oda, de la reconnaissance. La reconnaissance. Yehuda, pourquoi il s'est appelé comme ça? Parce que, vous savez, le massé de Yehuda et Tamar dans la Gemara et tout ça, dans la Torah, ça est rapporté dans la Paracha, qu'une fois, Tamar, elle s'est mariée avec les deux enfants de Yehuda. Et ces deux enfants-là, ils sont morts. Et après, on l'a promis au troisième enfant. Et ce troisième enfant, donc, elle était fiancée avec lui, elle n'avait pas le droit d'aller avec quelqu'un d'autre. Et une fois, elle était triste et tout ça. Elle voyait qu'ils n'avaient pas tenu promesse de le donner au troisième enfant parce qu'ils savaient qu'elle était katlamite, c'est-à-dire une femme qui se marie deux fois. Elle a une chazaka que ses maris ils ne pourront pas subsister, tout ça. Donc ils ont dit, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à la croisée des chemins, elle s'est habillée avec une tenue et tout ça, un petit peu moderne, on va dire. Enfin, elle s'est recouvert le visage et tout ça. Elle est ouane muslimine et tout ça. Bref, ils ont eu des tenues un peu bizarres et tout. Elle s'est mise là-bas à la croisée des chemins. Et Yehuda, il est passé là-bas et il a détourné son chemin. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a fait ça. C'est Beruach HaKodesh qui a fait cette chose-là parce que le Mashiach, il est sorti de là-bas après et tout ça. Il a fait détourner son chemin et il est venu et il a vu cette jeune femme et tout ça qui était là-bas. Et il a commencé à faire un petit commerce avec elle. Et il lui a dit, voilà, et tout ça, je suis épanoui, moi aussi, et tout ça, ça tombe bien. Ils se sont rencontrés, ils ont fait un petit chidour et tout ça, et ils sont allés ensemble. Mais elle lui a dit, moi, je ne peux pas te aller avec toi si jamais tu ne me donnes pas un salaire. Il lui a dit, écoute, quand cela ne tient, moi, je vais te donner un gage. C'est mon bâton et mon seau. Et après, après je te renverrai ce bâton et ce seau, et toi, je t'enverrai deux chevreaux et tout ça. Et contre ces chevreaux, tu me rendras mes gages. Le lendemain, Yehuda, il vient pour chercher cette femme, elle avait disparu, il a commencé à demander à Adoulami, je me rappelle de son nom, c'est un peu spécial que je me rappelle de son nom, mais c'est parce qu'il a un nom un peu bizarre, Adoulami et tout ça. Il vient demander à Adoulami, est-ce que vous avez déjà vu cette femme et ça? Il dit non, moi je connais très bien le quartier et tout ça, il n'y a jamais une femme pareille. C'est pas possible et tout, il n'a pas trouvé son gage. Quelques mois plus tard, il voit que cette femme qui était promise à son fils, et donc elle était Mekoudéchette, elle était mariée, donc elle était fiancée, et d'après la Torah, le fiançailles c'est comme le mariage, et ben, il la voit enceinte. Alors là, il a commencé à se dire, il y a une petite maldonne, ça peut pas se passer comme ça, qu'on l'amène sur la place publique et qu'on la brûle vive. Qu'on la pend dans les cours, qu'on la brûle. Parce qu'elle était de la famille des Kohanim et tout ça, donc une bad Kohen, elle doit être très besrefa. Alors que les autres, ils sont beskila, je crois. La bad Kohen, elle est besrefa. Hein? Ils sont bechenek, les autres? Ils sont bechenek, ceux-là, ils sont besrefa. Donc, hein? Ah, pardon, j'ai compris. La femme, elle devait subir la peine. Shalom Aleichem. La femme, elle devait subir le. Je suis sûr qu'on va se retrouver avec 100 personnes à la fin. C'est pas possible. C'est parce qu'on a appelé les gens, parce qu'on étudie pour la réfoua chez les mains des malades, Rabotaï. On a besoin d'une grande équipe, envoyer des SMS, mais concentrez-vous quand même. Donc vous comprenez, lui, Habibi, je t'explique l'affaire. En fait, il fallait, elle, comme elle était une fille de Kohen, Bat Kohen, elle est Besrefa, ça veut dire qu'elle, la peine de mort qui s'applique à elle, c'est la peine où on doit la brûler. Donc on devait la brûler sur la place publique et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Elle n'a pas voulu faire honte. Et on apprend de là, la Gemara nous dit qu'il vaut mieux mourir dans le feu plutôt que faire blêmir son prochain en public. On n'a pas le droit de faire honte, de toute façon, il faut être prêt à mourir dans le feu. Elle s'est dit, si jamais, elle aurait très bien pu le dénoncer, alors elle ne serait pas morte, mais il aurait eu honte devant tout le monde. Elle a dit, je vais envoyer ce maquel-là et ce truc, que celui à qui il appartient, il reconnaisse cet homme. Si jamais il reconnaît cet homme, ben alors je vivrai. S'il ne reconnaît pas cet homme, alors moi je préfère mourir que de faire honte à mon prochain en public. Et qu'est-ce qui s'est passé, Rabotai? Moïse et Rabotai, c'est Yehuda qui était le roi, c'est un roi d'Israël, c'est un gibor. Il est très rachou, c'est le fils de Jacob. Il reconnaît devant tout le monde sa décaïmémeni. Il reconnaît qu'elle était plus juste que lui. Et ça veut dire que lui s'est trompé, tout ça, et que c'est elle qui avait raison. Comme quelle force il faut pour pouvoir reconnaître devant tout le monde qu'on s'est trompé. C'est très difficile. Alors qu'il aurait pu passer ça sous silence et tout ça, il aurait pu se taire. Personne n'aurait rien su de ça. Lui, non, il a dit, allez. De là, raboteille, on a eu dans notre gène, dans nos gènes, on a eu la force de reconnaître. Un Ben Israël, il a une Neshama, Kdosha et Teora au fond de lui. Même s'il est dans la faute, même s'il est dans l'erreur, même s'il est à Ibiza en train de danser sur les plages, il est là-bas au Pacha de Tel Aviv en train de faire des ch'touillottes. Il dit au fond de lui, il a ce Yetzer HaTov qui lui fait une voix. Kol Lodi Dofek, Pitrili, Achoti, Rayati, Onati, Tamati. Il y a mon cœur qui est en train de résonner. C'est en train de battre parce que je suis en train de faire des avérotes et ma Neshama, elle se sent mal, elle n'est pas en phase avec mon corps. Et ma Neshama, elle a envie de sortir, c'est pour ça qu'il y a ce battement de cœur qui s'accélère. Et là, je vais reconnaître mon erreur et ça s'appelle que je suis un fils d'Israël. Rabota, il est venu Israël au temps de Achashverosh. Alors qu'ils auraient très bien pu ne pas reconnaître, ils auraient pu se dire, ben non, c'est à cause de lui, c'est pas prosterné. Et Bnei Israël, ils ont reconnu. Vous savez pourquoi on a été déporté? C'est parce qu'on a profité de la Seouda, de ce auto-rachat, de ce rachat Merusha. Et qu'est-ce qui s'est passé? Venez, venez. À ce moment-là, Rabotaï, les Bnei Israël, ils ont reconnu parce qu'ils avaient dans leur patrimoine génétique ce que Yehuda, il avait fait, Maasevot Siman Labanim, les actions des parents, c'est des Simanim pour les enfants. Ils ont ce mérite d'avoir cet héritage. Le père, il a fait Messirut Nefesh, il a prié, il a fait quelque chose pour son fils. Son fils, il est heureux d'avoir ce patrimoine. C'est comme une transmission d'un patrimoine génétique, de la même façon que tu transmets des gènes et tout ça. Les chromosomes X, Y, Y, Z et tout ça. Tu connais les chromosomes et tout. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu les chromosomes, mais je me rappelle qu'il y a des X, Y et tout ça. Donc tu vois, de la même façon que tu as des chromosomes X, Y et tout ça, de la même façon, tu as des transmissions dans les gènes. Les Yirat Shamaim de la maman de Moshe, ben, Moshe Rabbeinu, il a reçu cette Yirat Shamaim par sa mère, Betzalel aussi par sa grand-mère. Vous pourrez le voir dans le Sefer ou dans les CD, c'est raconté là-bas. Mais quand on fait Messirut Nefesh pour quelque chose, les enfants, c'est les premiers bénéficiaires de cette chose-là. Donc Yehuda, il a fait ça, les Bnei Israël, ils ont reconnu. Et comment ils ont reconnu? Comment ça se fait que c'est marqué, cette rose de Yaakov, elle s'est réjouie et elle était heureuse? Il dit, ils se sont rappelés de Yaakov Avinu, Rabotai. Regardez Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait, quel est le moussard qu'il leur a apporté, qu'ils ont reconnu le tort qu'ils avaient. Yaakov Avinu, c'est marqué que dans la paracha de Vayetse, il s'est retrouvé avec son frère Esav. C'est marqué Yaakov, Vaishlach Yaakov Malachim, les Esav Achiv, les Achiv Esav. Il a envoyé Yaakov des anges à son frère Esav. Et il dit, c'est bien qu'à cela ne tienne. Et Rachid là-bas, il est sur place, il nous dit, ces malachim, ce n'est pas des messagers, c'est des vrais anges. Et Rabbi Yaakov Baridi relève, la Gemara dans Masechet Brachot à la page 4, folio A, elle relève une contradiction. C'est marqué là-bas que, lors du rêve merveilleux que Yaakov Avinu il a fait avec le rêve de l'échelle, là-bas où il a vu les malachim qui montaient, qui descendaient, tout ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait une grande promesse. Il lui a dit, mon fils Yaakov, veine anochi imach, je serai avec toi mon enfant. J'irai avec toi partout où tu iras. Kilo et Zofra, je ne t'abandonnerai pas. Il a la Askama d'Akadosh Baruch Hu que jamais Akadosh Baruch Hu il va le délaisser, qu'il sera avec lui à chaque instant de sa vie et tout ça. Et Yaakov Avinu, c'est marqué un peu plus loin dans la paracha, quelque chose qu'on a du mal à comprendre. C'est marqué Vaïra Yaakov Meod. Yaakov Avinu, il a eu très peur. Habibi, qu'est-ce que tu as peur? Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il va être avec toi, il va être à tes côtés, il ne t'abandonnera jamais. Et toi, tu viens et que tu commences à trembler. Encore plus pour renforcer la question, nos chachamim nous disent, c'est quoi Vaishlach Yaakov Malachim? Il dit, il a envoyé des Machanaim. C'est quoi Machanaim, Rabotai? C'est 40 millions de Malachim Acharet. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il est arrivé avec une équipe, ouais, l'armée là-bas de l'OTAN, là-bas, c'est des chèvres, le casque bleu là-bas, ils n'existent même plus. L'Interpol, tous les gens, ces chèvres chauds là-bas, ils n'ont aucune armée qui peut rivaliser avec ça. 40 millions de Malachim Acharet. Et mes amis, un malach acharet, il a suffi à mettre en cendres et en feu toute la ville de Sodome et Gomorrah. Sodome et Gomorrah, avec un malach acharet, ils ont déchiré toute la ville. Là-bas, il est venu avec 40 millions d'anges. Il vient avec la promesse d'Akadosh Baruch Hu et il commence à trembler. Rabota, il y a une contradiction ici. Comment c'est possible, Yaakov, que tu trembles alors que toi, tu viens avec ces 40 millions d'armées là-bas? Personne ne peut avoir 40 millions d'armées, c'est impossible. Même les Chinois et tout ça, ils n'ont pas ça. Dis qu'il y a 40 millions d'anges de malach acharet redoutables qui viennent avec toi. Et la promesse du patron de l'univers qui est le maître des guerres. Il vient, tu viens avec ça et tu commences à trembler. Où est ton bitachon? Où est ta emouna, Yaakov? Qu'est-ce qui t'arrive ici? Rabbi Amar Rabbi Yaakov Baridi, il répond à cette contradiction. Rabbi Yaakov Baridi d'Agmar dans Maseret Brachot à la page d'Alet Amud Alef. Il dit Amar Rabbi Yaakov Baridi, Shema Igrom Achet. Yaakov Avinu, il a eu peur que comme il venait de sortir de chez Lavan, de 20 années de travail chez Lavan, il a eu peur qu'il ait commis une faute là-bas. il ait commis une avéra. Et il savait, Yaakov Avinu, que si jamais il commet une avéra, toute la promesse qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pour lui, elle est betela ou mvutelef. Elle est annulée, nulle et non avenue. C'est comme ça qu'il a compris. Il a dit, moi j'étais avec ce Mzrob là-bas pendant 20 années, je suis allé avec ce Lavan. Lavan, pourquoi il s'appelle Lavan? Parce qu'il est koulou kosher, ce Mahaboud. Dis, tu connais la philosophie des lumières, c'est la philosophie de l'obscurité. Les gars, ils viennent et te disent, oui, les lumières et tout ça, les contre-dieux et tout ça, c'est ça la vraie vie et tout ça, libérez-vous et tout ça. C'est le plus grand événement du monde, il est en train de se dédouaner de ses responsabilités parce qu'il n'a pas envie d'être reconnaissant, donc il dit que Dieu n'existe pas parce qu'il n'a pas envie de rendre des comptes. Mais il n'a pas compris qu'en fait, il se ment à lui-même parce qu'il n'a pas envie d'assumer les responsabilités qu'il a d'être le fils du roi, donc il dit Dieu n'existe pas. Ça s'appelle la philosophie de l'obscurité, tu te mets dans l'obscurité. Tu dis surtout n'allumez pas la lumière, laissez-moi dans l'obscurité, je ne veux pas voir le Hémet. C'est ça, Rabotaï, la philosophie des lumières, c'est l'obscurité. La vanne aussi. On dit, la vanne, il ressemble à un cochon et un dromadaire. Vous avez déjà vu le cochon? Ce marboule, le cochon, toujours, il met toujours ses pattes en avant et sa tête derrière. Pourquoi? Parce qu'il rumine pas, mais il a le sabot fendu. Donc il dit, regardez mon sabot, comment il est fendu et tout ça. Regardez mes signes de pureté. Mais par contre, sa tête, il la met derrière parce qu'il n'a pas envie qu'on revoie que c'est un animal qui ne rumine pas et qui n'est pas caché. Et il dit, le chameau, vous avez déjà vu la pub de Kamel et tout ça? Le chameau, vous l'avez vu, comment il mange quand même? Vous connaissez ça, image ce marmoule. Vous avez déjà vu un chameau toujours, il est assis comme ça. Il s'assoit toujours sur ses pieds. Vous avez déjà vu un chameau? Pourquoi il s'assoit comme ça, ce Mzrob? Parce qu'en fait, il rumine, mais ses sabots, ils ne sont pas fendus. Donc il cache ses sabots pour dire, regardez, je suis cachère et tout ça, mais en fait, il n'est pas cachère. Il y a la même façon. Lavan, il dit, regardez, je suis coulo Lavan, je suis blanc, mais en fait, il est coulo cochère. Il dit, Yaakov Avinu, il sortait de ce marmoulin. Et il a dit, moi qui ai vécu avec lui, c'est sûr que peut-être. Il a pu avoir une influence sur moi, il a pu me faire entrer de l'obscurité en moi, et j'ai pu peut-être commettre une faute là-bas. Et si j'ai commis une faute, toutes les promesses d'Akadosh Baruch Hu, Avodaira, c'est ça d'Atsum. Toutes les promesses d'Akadosh Baruch Hu, et ces 40 millions ne servent à rien si jamais j'ai pas Akadosh Baruch Hu avec moi parce que j'ai commis une faute. Je viens avec 40 millions de soldats, je viens avec une promesse d'Akadosh Baruch Hu, si je me suis détourné de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors tout ça, ça vaut rien. Et à l'inverse, Rabotai. Et on voit Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, on voit le bitachon et l'aïmouna qu'il avait quand il est sorti là-bas et qu'il a fait le rêve de l'échelle. Il était dans la jungle, au milieu de la forêt là-bas, au milieu du désert, avec des chacals blancs du désert là-bas. Ils sont redoutables, ils peuvent te mordre et te tuer sur place. Des serpents là-bas qui peuvent venir te faire des choses incroyables. Des lions qui peuvent venir te dévorer tout cru et tout ça, ils n'ont pas mangé depuis longtemps, ils peuvent faire des brochettes de shawarma avec ça. Il dit, il peut faire toutes sortes de choses et tout ça. Le gars, il est dans une situation difficile. Et Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il dort, il met juste une petite muraille de pierre autour de sa tête. Pourquoi? Pour voler l'intervention providentielle d'Hachem qui lui a fait un miracle. Il ne veut pas se dire, moi je suis au niveau de recevoir du miracle. Donc qu'est-ce qu'il fait? Yaakov Avinu, il met une petite muraille de pierre autour de lui. Yaakov Avinu, il n'a pas peur. Comment il peut trouver le sommeil à cet endroit-là? Parce que Yaakov Avinu, il sortait de la yeshiva. Pendant 14 ans, il avait étudié jour et nuit. Et la Torah, elle nous dit, la nuit est tombée, Yaakov, il allait dormir. Ah, merci beaucoup, je ne savais pas que quand il faisait nuit, on devait dormir. Le Midrash te dit, Habibi, tu sais pourquoi la Torah, elle te dit ça? Parce que depuis 14 ans, il n'avait pas dormi, Yaakov Avinu. Il avait fait juste des siestes, des micro-siestes là-bas quand il était en train d'étudier la yeshiva de Shem Ever. Il a étudié comme un lion, il était avec les Gdoshim et les Théorim, il n'avait commis aucune faute. Et à Kovino, il peut dormir tranquille. Au milieu de tous les marboulim de la jungle, de tous les fauves et de tous ces animaux redoutables, il dort tranquillement. Par contre, il sort de chez Lavan, de cet homme qui est le plus perverti du monde, il se dit, là j'ai peur, même si Akadosh Baruch Hu m'a fait toute cette promesse, même si j'ai 40 millions de gens. En vrai, c'est un yesod qui nous livre, qui est magnifique, il est lumineux. C'est le fait qu'il nous dit à Akadosh Baruch Hu, mes enfants, sachez une chose, c'est que ce n'est pas les forces physiques qui dominent et qui dirigent le monde. C'est la proximité avec Akadosh Baruch Hu et la fidélité au message divin. Si jamais tu es proche d'Akadosh Baruch Hu, viens mon frère. Viens, voilà, là-bas. Et si jamais tu es avec Akadosh Baruch Hu, il ne pourra rien t'arriver dans ta vie. Si jamais tu n'es pas avec Akadosh Baruch Hu, tu as beau avoir l'armée la plus puissante du monde, les soldats les plus puissants, l'armement le plus sophistiqué du monde, mais ça ne te servira à rien parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui te protège. Qu'est-ce que tu vas faire contre la bombe atomique? Tu vas sortir tes artilleries lourdes, tu vas sortir ton F-16, ton M-16, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il t'envoie une bombe atomique sur la tête, qu'est-ce que tu fais? Si c'est pas les tuyaux que tu envoies vers Akadosh Baruch Hu, que tu pries, que tu cries vers Hachem, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut te protéger dans ce moment-là, Rabotai. Et les Bnei Israël à ce moment-là, ils ont compris cette chose-là. Shoshana, Shel Yaakov, Salah, Vesmecha, à un moment de Purim, ils ont pris conscience qu'ils avaient fauté dans la Emouna et dans le Bitachon. Ils ont pris conscience qu'ils n'avaient pas eu Emunat Rachamim, qu'ils n'avaient pas suivi et que c'est nos Averot qui nous ont été gourem ce Matsav-là. Ils ont dit si déjà Yaakov Avinu, qui était un Kadosh Elyon, qui était un patron, que lui c'était le patriarche le plus accompli de tous les patriarches, le fils choyé d'Akadosh Baruch Hu, il a tremblé alors qu'il avait 40 millions de gens avec lui et qu'il avait la promesse d'Akadosh Baruch Hu. à la khat kama avec Amanou, nous qui avons fauté, qui nous sommes attablés avec des mzrobim là-bas, qu'on a vu cette Mahboula qui s'est mise nue devant tout le monde et qui avons vu des gens qui sont venus servir avec les ustensiles du Kohen Gadol. Ils ont servi avec les habits du Kohen Gadol. Il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Assuérus, il est venu avec la tenue du Kohen Gadol. Ils ont commencé à manger dans les kélim du Beth Amikdash. Quel zilzoul pour la Torah. Il dit combien on doit trembler, combien on doit avoir peur. Et les Bnei Israël à ce moment-là, ils se sont ressaisis à Bouteille. Ils ont dit, on croyait que c'était la diplomatie, les armes et la force qui nous mettaient en sécurité. Donc on va se mettre bien avec les autorités du pays, on sera protégé. Ils ont dit, c'est pas ça. Ils ont dit, Kol Touv, Salam Alaikum. Le gouvernement, la diplomatie, toutes ces choses-là, ça n'existe plus. On va s'asseoir, on va faire 3 jours de jeûne, on va crier vers Akadosh Baruch Hu et par ce shrout, Akadosh Baruch Hu va nous sauver. Rabouda, ils ont compris cette chose-là. Ils ont compris ce concept lumineux que tu peux avoir 40 millions de gens contre toi qui ont décrété à ce moment-là ton extermination. Ouais. Et que toi, tu n'as pas d'armes, tu n'as rien du tout, mais tu n'as pas à avoir peur parce que tu as Akadosh Baruch Hu avec toi. Et d'un autre côté, tu as 40 millions d'anges avec toi, tu as 40 millions de soldats et tout ça, tu peux trembler parce que tu n'as pas Akadosh Baruch Hu avec toi. C'est ça, c'est pour ça que la rose de Yaakov, elle s'est réjouie parce qu'ils ont repensé à cet enseignement et grâce à ça, ils ont pu se sortir de ça. Et Akadosh Baruch Hu, il les a pardonnés, il les a protégés. De la même façon, pourquoi ce Shabbat s'appelle Shabbat Agadol? On sait que... Je vais aller... De la même façon, on voit que le Shabbat Agadol, il s'appelle Shabbat Agadol. Le Rav Yecheskel Levinstein, un des grands gdolim de la Torah, je peux vous montrer sa photo, elle est là. Et c'était le Majgar de Ponyovitch, un homme qui était d'une Gdoucha et d'une Tahara très très particulière. On dit sur lui qu'on pouvait palper sa Emouna. Avec les doigts, on pouvait voir. Il mangeait de la Emouna, il buvait de la Emouna, il respirait la Emouna. Il est là. C'était un grand, grand, grand sadique. Il était à Ponyovitch, la plus grande échiva d'Israël. Là-bas, c'était une grande lumière de Ponyovitch. Il dit, ce Rav, un pshat magnifique sur ce que ça s'appelle le Shabbat Agadol. Pourquoi on appelle ce Shabbat Shabbat Agadol? Qu'est-ce qu'il y avait de Gadol dans cette chose-là? On sait que les Bnei Israël, quand ils ont vécu autant de temps avec ces Égyptiens, ils ont été aussi, de la même façon que les Bnei Israël, quand ils étaient avec les Perses, au temps de Assuérus, ils se sont épris de la culture des Perses et ils ont commencé à s'assimiler un petit peu avec eux. De la même façon, les Égyptiens, les Bnei Israël, ils se sont assimilés non pas en se mariant, parce qu'on sait qu'ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leurs habits, ils ont gardé leurs vêtements, leur nom, et encore une autre troisième chose. Leur langue, Khazak, donc ils ne se sont pas assimilés, mais d'un autre côté, ils se sont aussi un peu assimilés aux mauvaises mœurs qu'il y avait là-bas. Ça veut dire qu'on sait que quand il y a eu la mer rouge qui s'est ouverte, la mer rouge s'est énervée. Elle a dit pourquoi moi je vais m'ouvrir devant les Bnei Israël, je ne vais pas m'ouvrir devant les Égyptiens. Et l'ouvre d'Avodazara, mais l'ouvre d'Avodazara, ceux-là ils se desservent dans des étoiles, et ceux-là c'est des idolâtres. Donc qu'est-ce qu'elle est la différence entre eux et tout ça? Akadosh Baruch Hu leur a dit Atidim les Kabbalat à Torah. Eux ils vont recevoir la Torah. Beshem Atid, Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est le seul peuple de l'humanité qui va recevoir la Torah, donc par ce mérite-là, il mérite d'être libéré. Et Rabbi Dai, celui qui pense à ça, il doit se dire une chose, c'est que pourquoi tu as mérité de survivre, c'est pour faire la Torah. Si jamais toi tu ne fais pas la Torah, alors cette promesse-là qu'on t'avait normalement, tu aurais dû être enseveli sur les eaux, donc tu ne mérites pas la vie. Si tu fais la Torah, tu mérites de vivre et tu mérites d'être libre, mais si jamais tu ne fais pas la Torah, tu ne mérites pas la liberté, tu ne mérites pas la vie. Et c'est ce que le verset dit là-bas. Ani Hashem Elokechem, Asher Otseti Etchem, Meretz Mitzrayim, je suis l'État entendu qui t'ai fait sortir d'Égypte, c'est le premier commandement, ouais. Liok Lachem Elokim, on dit dans le schéma. Pour être état entendu, c'est pour ça que je t'ai fait sortir. Si jamais c'est pas, je t'aurais laissé là-bas. Donc il dit là-bas que les Bnei Israël, ils se sont épris de cette culture égyptienne et de ça, ils ont commencé à s'affaiblir dans leur émouna, dans leur bitachon. Et là, qu'est-ce qu'on vient leur dire? Pour sortir, il fallait qu'ils aient une mitzvah. Parce qu'ils étaient nus de mitzvot, ils n'avaient pas de mitzvot. Et pour sortir de quelque part, de la touma, il faut avoir des mérites. À Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous allez prendre un agneau pascal, la vache qui rit là-bas et tout ça. Ils rigolaient pas d'ailleurs cette vache ce jour-là parce qu'ils savaient ce qui allait leur arriver et tout ça. Il dit, vous allez prendre la vache Milka et tout ça, l'agneau pascal, vous allez l'attacher là-bas. Là-bas, à l'époque, ils ne leur faisaient pas la teinture à violette parce qu'ils n'avaient pas d'instrument pour faire ça. Mais en tout cas, ils leur dit, vous allez l'attacher là-bas au pied du lit. Et dès que vous allez l'attacher au pied du lit, pendant 4 jours, elle va rester là, cette gros bas de l'agneau pascal. Et vous allez lui faire le corban Pessah. Et vous allez badigeonner les mezuzot avec votre porte et tout ça. Comme ça, le Malach Hamavet, il va faire Pessah. Ça veut dire qu'il va sauter au-dessus des maisons des Bnei Israël. Ouais. Et grâce à ça, vous allez avoir la vie. Rabouda, avec quelqu'un qui entend une chose pareille, il dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'on me demande de faire? Je suis dans un pays étranger, invité et un résident qui est déjà mal vu des autorités là-bas, et on va me demander de prendre l'objet de culte et de divinité du pays et de le sacrifier. Il dit, mais c'est comme si je prenais une corde et que je sautais là-bas de l'Himalaya avec une corde autour du cou, je me pends sur place. C'est quoi cette chose-là? Et Rabouda, qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Ils ont écouté, ils ont entendu, ils se sont dominés, ils se sont dépassés, alors que c'était très difficile. Et qu'est-ce qu'ils devaient être métaken, l'idolâtrie? Puisqu'ils ont commencé à avoir de l'idolâtrie en eux, C'est quoi l'idolâtrie? C'est de penser qu'il y a un autre que Dieu qui dirige. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël à ce moment-là? Ils ont dit c'est Hachem Itbarar qui dirige Enon Milevado Hachem ou Elohim. On va faire la volonté d'Akadosh Bokhu et Kol HaShomer Mitzvah Eno Mekabel Davara. Celui qui garde la Torah et les Mitzvah, s'il ne peut pas lui arriver quelque chose de mal. Ou Shomer Minanezikin, il n'y a pas de problème qui peuvent lui arriver. Dit, c'est vrai qu'Alpidel Hateva, d'après la diplomatie, d'après les lois et tout ça, nous il faut qu'on soit en bon terme avec les autres, on ne veut pas leur sacrifier leur Dieu. Hachem m'a dit ça. Si je fais ça, je trouverai grâce aux yeux du monde, parce que celui qui fait la volonté d'Hachem, il trouve grâce aux yeux de toute l'humanité à Rabotai. Ils sont venus, ils ont accompli la chose, à la lettre. Ils ont dit, on n'a pas peur, nous. On fait ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, et Arbik Bir, Akadosh Baruch Hu, il est grand. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont venus, ils ont sacrifié cela, les autres, ils sont restés pétrifiés, ils ne pouvaient pas bouger devant eux. Et là, ils ont été mekabel sur Chizouk, dans la Emouna et dans le Bitachon, puisqu'ils étaient faibles dans la Emouna et le Bitachon, parce que l'idolâtrie, c'est l'inverse de l'Emouna et le Bitachon. C'est que tu penses qu'il y a d'autres qui dirigent qu'Akadosh Baruch Hu. Et Fazulato, ils sont renversés, ça s'appelle Shabbat Agadol. D'avoir Gadol à sous. Comme les Bnei Israël qui étaient en temps de Purim, se sont renforcés dans la Emouna dans le Bitachon, ils ont dit on va faire des prières et c'est grâce à ça qu'on va sortir. Eux ils ont dit on va faire une mitzvah et c'est grâce à ça qu'on va sortir. Ils ont été protégés, ils ont été préservés. On voit donc, mes chers amis, que chaque fois qu'on a été dans une situation difficile, notre survie elle dépend de notre capacité à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et à nous renforcer dans cette foi. Même si tu vois des choses qui vont complètement à contre-courant de ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit, fais-le et tu sais qu'Akadosh Baruch Hu il va te sauver. Et à la fin des temps, on sait que ça ressemble à cette sortie d'Égypte. Et donc la même épreuve qu'il y a eu de croire en Akadosh Baruch Hu malgré ce qu'on voit qui n'est pas différent, qui est complètement différent, à l'inverse de ce marboule de Saint Thomas d'Aquin, mal Saint Thomas, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit je crois que ce que je vois. Vous connaissez ça? Je crois que ce que je vois. Il dit moi je vois que ce que je crois. Si jamais je vois, je crois d'une foi puissante, alors je verrai la chose. Mais si tu dis je crois que ce que je vois, tu crois rien de ce que tu vois, Marboule. Qu'est-ce que ça s'appelle croire? C'est quelque chose que tu vois pas. Si jamais tu le vois, tu le crois pas. Si jamais tu le crois, si jamais tu le vois, c'est pas que tu crois, c'est que tu sais. Donc qu'est-ce que tu dis je crois que ce que je vois? La Torah t'a dit l'inverse. Je vois des choses qui sont complètement à contre-courant. Chachamim me disait de faire une chose, mais je comprends pas. D'après les lois de la diplomatie et des relations internationales et tout ça, je comprends pas comment ça se fait que je dois faire ça. Il dit tu fais ça et tu verras qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a dit, ça s'accomplira. On sait qu'à la fin des temps, on va lutter contre Amalek. Amalek, son combat et sa lutte, c'est la lutte contre la foi et contre le bitachon et contre la Emouna. C'est comme ça qu'il va vouloir lutter contre nous. On sait qu'Amalek, il a attaqué les Bnei Israël sur trois points. De trois façons, sois le bienvenu, mon nom. Viens. Ils sont là, ils sont là. Viens avec nous. Cherche l'équipe et rapatrie-les au plus vite. Vous comprenez, l'épreuve de la fin des temps, on sait qu'Amalek, c'est une guerre éternelle. Et on sait que le trône d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas complet jusqu'à ce qu'on ait effacé le nom d'Amalek dans le monde. C'est la mitzvah de Mirkat Amalek d'effacer le souvenir d'Amalek, c'est une mitzvah midite de la Torah, que chaque jour il faut l'effacer. Et il y avait un grand rav qui s'appelle le Birkat Shmuel, il disait le Birkat Shmuel, que comment il arrivait à sonder sa Yirat Shamaim, il arrivait à mesurer sa Yirat Shamaim en fonction de la haine qu'il avait contre Amalek. Plus il avait la haine contre Amalek, plus il était Yirat Shamaim, il avait la crainte du ciel. Et plus sa haine contre Amalek elle se refroidissait, et plus ça veut dire qu'il n'avait pas la Yirat Shamaim. Et mon maître Rav Moshe Khaliwa, un grand sadique, il m'a expliqué c'est quoi cette chose-là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit quand quelqu'un il est réceptif au mal, il voit du mal et qu'il est réactif et qu'il a une haine contre le mal, ça veut dire qu'il aime la Gdusha, il aime la Tzidkout. Mais si le gars ça ne le dérange pas de voir des gens faire des Averot et de faire du Chilul Hashem et de ça, c'est-à-dire que sa Yirat Hashem elle n'est pas palpable, elle est à la panim. C'est un matzav très difficile pour lui. On sait qu'Amalek il s'est attaqué de trois façons au Bnei Israël. La première façon qu'il s'est attaqué, c'est marqué va y avoir Amalek Refidim. Il est venu à Amalek et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Refidim. C'est quoi Refidim? Nous disent la Gemara dans Maseret Sanhedrin, Refu Yedem Mina Torah. Ils ont affaibli leurs mains dans l'étude de la Torah. Les Bnei Israël avant ils étudiaient, ils se renforçaient, tout ça, Amalek n'avait pas prise contre eux. Dès qu'ils se sont affaiblis dans l'étude de la Torah, à ce moment-là on a été attaqué, on a eu le problème d'Amalek qui est venu surgir contre nous. La deuxième chose que les Bnei Israël ils ont eu un problème, c'est dans la Emouna. Et c'est comme ça qu'Amalek il est venu les attaquer. C'est marqué qu'il y avait des Nechashalim là-bas, des retardataires, et que Amalek il a écouté les retardataires. Ça veut dire qu'il est venu taper à la queue des Bnei Israël, il y en avait qui traînaient là-bas quand on est sorti d'Égypte. Il y avait des gars qui traînaient en queue de peloton là-bas. Pourquoi ils traînaient ceux-là? Parce qu'ils avaient peur. Ils se sont dit comment on va faire pour manger dans le désert? Aïm Hashem Bekir Beno Aïm. Est-ce que Kadosh Baruch Hu il se situe vraiment avec nous? Est-ce qu'il est avec nous et tout ça, Hashem, ou il est pas là? Ils ont commencé à se poser toutes sortes de questions d'Emouna. C'est pour ça qu'ils n'ont pas couru pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Rabotai. Ils ont commencé à être un peu mitigés comme ça. Ils ont dit peut-être Hachem il est avec nous, peut-être pas. Bon, on va commencer à marcher, mais pas trop vite, parce que sinon, on pourra vite retourner là-bas si jamais il se passe quelque chose. Amalek, il est venu, il les a enrôlés dans son armée, Rabotai. La Imouna, c'est quelque chose où il n'y a pas de pique-pouk, il n'y a pas de safek. C'est une Imouna chez les mains à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on fait le schéma Israël. Schéma Israël, Hachem el Kenou, Hachem Echad, t'es en train de faire le schéma. Pourquoi tu mets ta main devant les yeux? Dis-le, Briskrov. Il dit le Rav Char, il n'a pas connu beaucoup sa mère et tout ça, mais il se rappelle que chaque fois sa mère, qu'est-ce qu'elle lui a enseigné dans sa vie, elle venait lui mettre la main devant les yeux et lui faire Shema Israël. Il se rappelle de sa maman, et grâce à lui, il s'est renforcé dans les moments les plus difficiles de sa vie. Il était dans la guerre, il n'avait pas de quoi manger, il mangeait des épluchures de pommes de terre. Il dit ma mère, elle m'a dit que je dois avoir le bitachon et la imuna, alors toute ma vie je dois tenir. Et il a dit que les moments les plus grands et les plus beaux de sa vie, c'était le moment où il mangeait des pots de bananes et des pots de pommes de terre. Comment ça c'est? Parce qu'il a senti la promiscuité et la proximité avec Hachem. Il sentait le souffle d'Hachem sur son visage. Il sentait qu'il était proche de son créateur. Il sentait qu'il n'y avait rien qui pouvait le séparer d'Hachem. Pas les médecins, pas la science, pas le fait d'être chômeur sur l'avocat, sur le patron, sur le PDG, sur qui c'est qui va me donner à manger, sur si. Que Hachem. En anou almi leishan et la lavinu shabashamayim. Dit le gars, plus il voit que tes choix d'Hachem qui est Refaïm. La providence d'Akadosh Baruch Hu, elle est comme un clin d'œil. Pourtant, on voit des gens qui sont malades très longtemps. Comment ça se fait qu'on dit que la providence d'Hachem, elle est comme un clin d'œil? Un clin d'œil, c'est rapide. Rav Yosef Tolano, un de mes maîtres, il m'avait dit un chat magnifique sur ça. C'est quoi ce choix Hachem qui est Refaïm? Dit tant que tu fais dépendre ta choix, c'est-à-dire ton salut, tu le fais dépendre de l'homme, de l'avocat, du médecin, du conseiller juridique, du mzrov là-bas de la banque, de tous ces marboulim. Il dit là, c'est pas qui est Refaïm, c'est long. Mais tes choix Hachem, quand tu vois qu'il n'y a plus d'espoir dans l'homme et que toi tu places toute ta confiance à Kadosh Baruch Hu, alors là, à ce moment-là, qui est Refaïm, parce que tu sens que tu es proche de lui, et Hachem, il te sort de l'obscurité à la lumière, à la Makom, directement, il te sort de là. Il dit donc lui, de la même façon, Rachar, il a vu qu'il était avec Hachem. Il a vu qu'il avait Akadosh Baruch Hu, c'était lui qui le faisait lire, il vivait par la bouche d'Akadosh Baruch Hu et tout ça. Il dit, c'est grâce à ma mère. Ma mère, tous les soirs, elle venait, elle me mettait la main sur les yeux, elle me faisait Shema Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et par reconnaissance pour ma mère qui m'a enseigné ça, j'ai voulu faire la Torah, j'ai voulu faire les mitzvot et je suis devenu Gadol Batorah. Avoda, il y a une petite action d'une petite mère là-bas. Il n'a pas connu beaucoup, ça peut changer la vie d'un enfant. Ça peut changer, vous allez besoin d'Hachem vous marier, ça vous êtes des jeunes freluqués encore et tout ça, mais d'Hachem un jour vous allez vous marier, tout ça. Il faut penser combien une petite action elle est importante. Comme on raconte sur un des Gdoshéliens de la génération, Rav Mordechai Gross, ils ont dit, ça c'était pas prévu au programme, mais quand vous avez des bonnes têtes, je vais vous le dire. Ça fait plaisir et tout ça, c'est hors sujet comme on dit. Mais Rav Mordechai Gross, il a demandé, le Rav Samuel qui est un de nos rabbanim, un grand sadique. Il a demandé une fois à ce Rav qui était avec lui à l'Yeshiva de Kol Torah à Jérusalem, qu'est-ce qui a fait de toi un Gadol Batorah que tu es capable de t'asseoir pendant 10 heures devant une Gemara sans bouger la tête? Il dit, moi, si jamais je commence à m'asseoir et tout ça devant la Gemara, au bout de quelques heures, au bout de quelques minutes, et tout ça, je vais m'endormir sur place. Si jamais je ne dis pas des shiurim à Metal Midim, si jamais je ne me renforce pas, lui, il est capable, dès qu'il oublie une petite partie de la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à réviser toute la Maseret. Du début jusqu'à la fin, il prend la Maseret et la révise. Il dit, qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un qui a pu faire une chose pareille? Explique-moi ton histoire. Il a dit, moi, j'avais une mère. Elle habitait à Mea Shearim, c'est un quartier riche de Yerushalayim, le quartier le plus riche du monde, Rabotai, là où il y a la Torah qui résonne le plus, c'est le quartier le plus riche, là où les gens sont le plus heureux. La richesse, c'est pas par rapport au portefeuille, on est à Wall Street, là-bas, avec les milliards. Moi, je connais des gars de Wall Street, quand je vais faire des conférences et tout ça partout, je vois des gens, ils ont des milliards, mais ils sont malheureux. Et je vois là-bas les petits de Mea Shearim qui courent avec leurs trois bambas dans les poches. Ils ont reçu le cadeau de Hanouka, c'est les bambas. Le gars, il est avec son shekel dans la poche, il achète une sucette. C'est le plus heureux du monde, il s'entretient à la Torah et des mitzvot, il court dans la rue, il est content parce qu'il vit dans le Hémet. L'autre, il a tout, mais il a rien. L'autre, il a rien, mais il a tout. Il vit avec la vérité, l'autre, il est avec le mensonge. Il n'est pas heureux, il n'est pas en paix avec sa neshama. Parce que Rabotai, celui qui peut être heureux, c'est seulement celui qui est en paix avec sa neshama. Pour être en paix avec sa neshama, il faut être en paix avec Hachem. Donc si tu vis dans le Hémet, t'es heureux, mais si tu vis dans le shekel, t'es malheureux. C'est comme ça. Donc tu vois, il dit, moi, j'ai ma mère, elle habitait dans le quartier, donc de Mea Shearim. C'est une petite parenthèse, ça fait un petit gifle dans le cou, on l'appelle. Ça remet les idées en place parfois parce qu'on oublie parfois l'essentiel. Quand on voit la Porsche Ferrari du voisin là-bas, de Mizrob, là-bas, on croit que c'est ça la réussite et le modèle. Ouais, j'ai réussi, j'ai la Porsche Ferrari et ça, je suis un patron et ça, je passe à la sixième vitesse sur la rocade et je me fais prendre mon permis. Après, je roule en vélo comme un chinois. Donc tu comprends, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Si tu n'as pas la nouvelle Clio, roule à vélo comme on dit chez nous. Je reprends mes esprits parfois, ça ne vous inquiétez pas. Donc j'étais en train de vous dire, donc cette femme-là, j'avais ma mère, il a dit le Rav Mordechai Gross, qui est un des Gdolim de Bnei Brak, un des grands poskim du Dor là-bas dans Tarat HaMishpacha et tout ça. Il a dit, moi ma mère, tous les jours, elle venait, elle faisait trois quarts d'heure de bus jusqu'à Beit Vagan. C'est à l'opposé, dans Yerushalayim, c'est deux opposés. Trois quarts d'heure de bus, j'arrivais à la yeshiva de mon fils, et pendant qu'il était en train d'étudier la Torah, je rentrais dans sa chambre, je lui faisais son lit, je lui posais un petit croissant que j'avais préparé le matin. sais pas si c'était un croissant, parce que là-bas en Israël, ils ne connaissent pas le croissant. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé un croissant, n'essayez pas de manger des croissants en Israël. Là, je rigole. Ça, à Nougatine et tout ça, ils ont des nouveaux magasins là-bas, genre le magasin français et tout ça, c'est du bon grignon. Là, vous comprenez, s'il y a des gars du Yerushalayim, je sais qu'ils sont en train de comprendre ce que je dis, mais ceux qui ne sont pas du Yerushalayim, pardonnez-moi, parfois je disjoncte un peu. Vous comprenez, Rabotaï, elle venait, elle lui posait ce petit pain sur son lit tout chaud, et elle faisait son lit, et elle lui marquait un petit mot, je suis avec toi, mon fils. Il a dit, ce Rav, quand j'ai vu que ma mère, pendant ces années, chaque jour, elle faisait 1h30 de trajet aller-retour, juste pour venir me faire mon lit, et pour me mettre mon petit pain, et pour me dire qu'elle pensait à moi, il dit, j'ai pas voulu la décevoir, c'est pour ça que je suis devenu un Gadol Batora. Il dit, j'ai tellement eu de reconnaissance pour cette mère qui a fait cette Messirut Nefesh pour moi, que je pouvais pas la décevoir. C'est pour ça que j'ai décidé de me battre de toutes mes forces pour devenir un grand dans la Torah. Habibi, c'est une petite action. Quoi, ça fait le Gadol Hadar? Oui, ça fait le Gadol Hadar. La Messirut Nefesh, Katit, la mort, la Nertamé, dit le Rahim Akadosh. Quand tu fais Katit, ça veut dire que tu concasses l'olive pour avoir l'huile d'olive du Betamigdash de la Menorah. Katit, la mort, la Nertamé. Plus tu concasses, plus tu fais Messirut Nefesh, et plus la lumière, elle illuminera l'humanité. Donc on a dit que les Bnei Israël, ils avaient ce problème de foi. Et on revient à cette affaire du Rav Shach qu'on a dit, parce qu'il ne faut pas perdre de vue l'affaire du Rav Shach. Le Rav Shach, il a dit, j'ai vu ma mère qui m'a enseigné cette chose-là de mettre ma main devant les yeux. Et une fois, le Rav Shach, il s'est dit, comment c'est que je dois mettre ma main devant les yeux? Pourquoi quand je fais Shema Israël, je ne vais pas juste fermer les yeux? Il faut juste se concentrer dans Shema Israël. Pourquoi tu mets ta main devant les yeux? Et d'après l'Halakha, d'après certains poskim, on n'a pas besoin de mettre la main devant les yeux. Le Brisque Rav, un des grands gdolim de la génération, il a dit, vous savez pourquoi on doit mettre la main devant les yeux? Parce que quand tu fais Shema Israël, tu dois mettre ta main devant les yeux parce que tu es en train de proclamer que Akadosh Baruch Hu Echad ou Shmu Echad. Tu es en train de dire que c'est lui l'éternel, c'est lui le Dieu, c'est lui le Créateur. Et qu'il est Echad, ça veut dire qu'il est un et que c'est la seule force dans le monde. Quand tu proclames ça, est-ce que toi tu as besoin de voir où tu vas? Ou est-ce que tu es capable d'être aveugle et de marcher aveuglément dans les voies d'Akadosh Baruch Hu? Si jamais toi tu es capable de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad et d'aller aveuglément, ça veut dire que tu crois dans ce que tu dis. Mais si jamais toi tu as besoin d'ouvrir tes yeux pour voir où tu vas, Ibarti Echad Bapev Echad Balem. J'ai parlé une fois avec mon cœur, une fois avec ma bouche. C'est-à-dire que tu n'es pas en phase et tu n'es pas en adéquation avec ce que tu dis et avec ce que tu es en train de penser. Donc c'est pour ça que Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ça, c'est la Emouna. Et les Bnei Israël, quand ils étaient dans l'Égypte et tout ça, ils ont commencé à sortir. Ils ont dit attention, on ne va pas sortir trop vite parce que tu n'as pas la Emouna Shema, tu ne sors pas. Si tu as la Emouna Shema, tu sors. Donc là, Amalek, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu, il les a recrutés dans son armée, il les a pris avec lui. Et la troisième chose, la Torah nous dit qu'Amalek est venu attaquer les Bnei Israël, c'est quand il y a eu un problème avec les poids et les mesures. Ouais. Vous savez que les Bnei Israël, si jamais on triche, avec les poids et les mesures, quelqu'un c'est l'épicier là-bas de la place de la Trinité de Tobago et tout ça, c'est un pays d'Afrique. Là, c'est un épicier qui vend du riz et tout ça. Si jamais il a mis des faux poids, il dit à ce moment-là, Amalek il va venir. Il dit pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait tout ça? Il dit ça, c'est cachoir avec l'aïmouna. Il dit, est-ce que tu crois que si jamais tu voles ton prochain, tu vas réussir dans le business? Et si jamais tu voles pas, alors tu vas pas réussir? Et toi, tu crois que si tu travailles? Moi, j'ai parlé hier avec un ami à moi, Mouskin, Hachem, il a créé autour de leurs orbites, Chouva, Chélema, Bézrat Hachem. Et il me dit, moi je peux pas, je travaille le Shabbat et tout ça, je suis dans l'immobilier, tout se passe le Shabbat, les gens ils ont le temps de visiter les appartements le Shabbat et tout ça. Si jamais je travaille pas le Shabbat, je ne veux pas manger. Yann Mahboul, Mzrob Bourriko Ahmar. Il dit, tu ne comprends pas que c'est le patron de l'univers qui te donne à manger? Est-ce que tu crois que si tu fais la volonté du patron de l'univers, alors il ne va pas te donner à manger? Tu dis ça tous les jours dans le Hachri HB, qu'est-ce que tu es en train de dire? Toi, tu dis que c'est lui qui ouvre sa main et qui rassasie tous les gens, avec sa volonté, selon leur volonté. Et d'un autre côté, tu es en train de dire, ah, si jamais je travaille le Shabbat, alors c'est bon, je serai sauvé. Est-ce que tu crois que si tu fais la volonté de l'Akadosh Baruch Hu, tu vas être pénalisé? Si jamais tu fais à contre-courant, tu vas être récompensé. Où est ta tête? Où est ton sérum? Où est ta Emouna? Ça s'appelle Ktana Amana. Le gars, il fait sa prière, peut-être, et tout ça, mais il comprend pas que c'est à Akadosh Baruch Hu, il y a les gens de l'univers. Il y a un vachant. Si toi, tu es capable de tricher avec les poids et les mesures, c'est que tu n'as pas compris qu'il y a un patron du business, c'est Akadosh Baruch Hu. Si tu respectes les lois du business et que tu es honnête et que tu fais Kiddush Hashem dans ton travail et que les gens ils disent voilà, regarde lui parce que c'est le fils d'Hashem, il ne vole pas les autres, il ne les trahit pas, il ne fait pas des mauvaises choses et tout ça. Il dit grâce à ça, tu vas avoir la bracha dans ton travail. Mais si tu crois que tu es en train de faire Kiddush Hashem, tu manges, tu triches, tu fais des choses, tu fais Kiddush Hashem. Akadosh Baruch Hu, il t'envoie la makom puisque tu n'as pas eu la Emouna, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. On t'envoie sur place, on t'envoie le Amalek qui va venir te déchirer. Et il te dit la même façon. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a qui vivent la Torah par canal satellite à la carte et tout ça. Chacun il fait ce qu'il veut. Ça s'appelle aussi deux poids et deux mesures. Il dit quand tu viens avec des poids et des mesures, ça veut dire quoi? Tu triches dans les poids et les mesures, ça veut dire que tu fais avec Akadosh Baruch Hu des Khejbonot. Tu commences à calculer avec Hachem. Tu dis oui Akadosh Baruch Hu, donc ça je suis prêt à te le donner Hachem, mais ça je suis pas prêt à te le donner. Habibi, comprends une chose, c'est que la Torah c'est le meilleur business du monde et que toi tu fais pas les choses pour Hachem, tu le fais pour toi. Plus tu fais la Torah et plus tu es heureux, moins tu fais la Torah et plus tu es malheureux. Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu il a quelque chose à faire de ce que tu es en train de faire? Akadosh Baruch Hu il veut ton bien, c'est ton père, il t'aime, il veut que tu sois heureux, il sait que la seule façon pour toi d'être heureux, Barati etc., Barati Torah Tavlin etc., il t'éloigne de la Torah. La Torah c'est le remède qui te soigne. C'est la Torah, c'est ce remède qui te permet d'être heureux, d'être en plénitude avec Akadosh Baruch Hu, avec ton Créateur. Hachem, de la même façon qu'un père, il veut que son fils soit heureux, pourquoi il te demande de faire la Torah? Il sait que c'est la seule façon pour toi d'être heureux. Tu crois que toi, tu donnes quelque chose avec Akadosh Baruch Hu? Rabotai, est-ce que tu crois que tu fais quelque chose pour Hachem? C'est comme si jamais tu allais chercher là-bas ce marabout là-bas de Mamadou avec son centime d'euro et tu lui dis, viens, tu vas donner Mamadou, tu vas donner la Tzedaka à Bill Gates avec ton centime d'euro. Et quoi, ça s'appelle une Tzedaka ça? Et là, ça va rigoler de toi, qu'est-ce que tu lui as donné? De la même façon, toi tu viens avec ta petite mitzvah. Akadosh Baruch Hu c'est le dépositaire de toute l'humanité, il a tout dans sa main. Et toi avec ta petite mitzvah, qu'est-ce que tu fais? Dis, tu lui fais plaisir à Akadosh Baruch Hu parce que tu as pitié de toi-même et toi tu vas être heureux grâce à la Torah et Hachem c'est ton père, il est content de voir son fils épanoui et heureux. Dis, c'est ça la Torah, tu crois que c'est le meilleur business du monde? Oui, moi je rends service à Hachem. Rabotai, je voulais vous raconter quelque chose en passant parce que c'était pas prévu à ce moment-là de la faire, mais je fais une déflocation sur la Côte Ouest parce que je vois que c'est un peu fluide le trafic donc j'y vais là maintenant. C'est marqué là-bas, hein. Quelque chose d'incroyable. Moi, je vous dis une chose. Quand je suis arrivé à la Yeshiva, j'étais un marboul. Je vais m'asseoir parce que ça fait à peu près 72 heures. Ça fait 3 jours que je suis en train de parler dans toutes les écoles, et ça, dans tous les endroits, et ça. Et je suis resté debout, je suis fatigué, ma bonne bière assise. Je suis fatigué, alors je reste un peu assis quelques secondes. Je vous raconte mon histoire, sauf que ça fait un peu sympathique comme ça. On est tous ensemble, on se croirait dans l'armée du salut. Dans le truc là, je connais pas, je m'en vais. Le truc des anonymes. Allez, moi je suis un alcoolique, mais je suis pas anonyme, je suis ivre de la Torah. Déjà, je vais vous raconter mon histoire. Moi, quand je suis arrivé à la Yeshiva, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait à Hachem et tout ça. Je suis venu m'asseoir à la Yeshiva et ça, combien j'ai fait Kessel d'Akadosh Baruch Hu et tout, combien il doit être fier de moi, Hachem. À cette époque, j'étais très connu dans le milieu et tout ça. J'étais un président européen d'une association, les gens ils scandaient mon nom et ça. Il y avait des élections européennes, Maître Chacal, c'est mon surnom. Ils mettaient ma photo là-bas, ils faisaient des danses folkloriques devant moi et ça. Les gens ils se levaient, ils m'applaudissaient alors que j'étais de la poussière et de la cendre, une goutte dans l'océan en bouteille. J'étais de la poussière et de la cendre, on se levait devant moi alors qu'ils n'avaient rien compris à la vie. Ça, tu le vois plus. J'étais très connu dans ce temps-là, donc je me disais tout ça, moi j'ai étudié en fait le droit international, je suis maître en droit international, j'ai fait la maîtrise de droit international, et je connaissais le président de l'État d'Israël, j'étais reçu par le président, par le Marabout là-bas, Ehud Olmert aussi, le premier ministre là-bas, d'ailleurs j'ai des photos avec eux dans la toilette chez moi. Enfin, je ne suis pas dans la toilette, c'est chez moi, dans la toilette. Je sais que vous avez compris, mais je préfère vous préciser au cas où on ne sait jamais, parce qu'il y a quand même quelques bruits qui circulent sur eux, alors on ne sait jamais. C'est pas bon. Ben avant, j'étais clean de ce côté-là, il n'y a pas de poils. C'est ce que je vais vous avouer, pas, alors là, il n'y a pas de problème. Je vous dis, j'étais connu du monde et tout ça, j'avais de la diplomatie des relations internationales, j'avais un ami qui s'appelait Mourad al-Hattab et tout ça, et on faisait la paix entre les Juifs et les Chrétiens. J'étais connu du monde et tout ça, ils ont dit lui il va rentrer à l'ONU, ça va être un homme connu et tout ça. Je réussissais, j'étais connu, tout le monde me connaissait, tout ça, j'étais dans la presse, dans les médias, dans les trucs et tout ça. Donc moi j'ai dit je vais faire un grand essai dans la chaîne. Je vais rentrer dans les Shiva et tout ça, et je vais m'asseoir pour étudier la Torah et tout ça. Et quelques jours plus tard, quand j'ai vu pas ma stupéfaction, quand j'ai ouvert la Gemara de ma Masechet Brachot, le 5e Perek, la première Gemara qui m'a donné une gifle, dont je me souviens jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai commencé à lire. On est en train d'étudier là-bas un truc, comment ça se fait qu'on doit se tenir en ayant la tête lourde? Un homme, il fallait la mitor comme un roche. Un homme ne peut pas se tenir pour faire la mida si ce n'est qu'il a la tête lourde. Quand ma tête est légère, non, je peux me relever. Donc, il dit, l'homme ne veut pas se tenir pour faire la prière s'il a la tête lourde. C'est quoi la tête lourde? C'est la soumission devant Akadosh Baruch Hu, que tu sens que tu es devant Melech Malcham Larim et que tu sens que tu as la shrina en face de toi, comme elle dit la Gemara dans Maseret Sanhedrin. Que tout celui qui prie doit sentir qu'il a la shrina en face de lui. Venez, c'est le moment ou jamais. Comment ça va, mon frère? C'est le meilleur. Bon, mon Hachem, on est content de te voir. Regarde, c'est celle-là. On a failli désespérer, mais t'es arrivé au moment propice quand je racontais l'histoire de ma vie. Ça fait plaisir. Donc, j'étais en train de dire que j'étais à la Yeshiva, j'arrive là-bas à la Yeshiva, et donc je suis en train d'étudier ce passage là-bas qui dit qu'on doit prier avec la tête lourde. La Gemara là-bas, elle demande d'où on apprend ça. Donc là-bas, il y a un verset qui dit peut-être on l'apprend de là-bas, de David Ameler. Vani berof chasdecha, Et moi, à Kadosh Baruch Hu, avec ta grande miséricorde, je viendrai dans ta maison et je me prosternerai avec crainte. Donc, puisque tu dois te prosterner avec crainte dans la maison d'Hachem, donc ça veut dire que tu dois avoir la crainte quand tu pries devant Hachem. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, attends, il doit y avoir un problème là, ici. Il y a une taout sofer là, il y a un problème dans le verset là-bas, ils ont dû se tromper. J'ai dit, amenez une autre Gemara parce qu'il y a un problème ici. C'est quoi, Vani Berof Hasdecha? Et moi, Hachem, avec ta grande bonté, je me prosternerai devant toi dans ta sainte maison avec crainte. Et moi, avec ma grande bonté à moi. C'est moi qui suis bon, alors je viens avec un Kadosh Baruch Hu et tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, avec ta grande bonté à toi, je vais venir ici avec ta rabotaille. Le temps, il a passé. Et j'ai vu combien c'est à Kadosh Baruch Hu, par sa grande miséricorde et sa grande bonté, il m'a éclairé. Il m'a permis de faire partie des Yoshvei Ohalim, des gens qui s'assoient dans les temples de la Torah et qui méditent la Torah et qui peuvent éclairer l'humanité de la lumière de la Torah, qui peuvent transmettre la Torah aux frères et faire rayonner cette lumière sur le visage de tous les frères du Ham Israël. J'ai eu le sroud de faire partie de ces gens qui peuvent s'asseoir et qui peuvent étudier et s'entretenir de la lumière d'Hachem. Il dit, j'aurais été un raté toute ma vie, j'aurais pu croire que j'étais quelqu'un, que j'aurais pu m'occuper de grandes choses, de faire la diplomatie, de faire la paix, que tout le monde il est dirigé par moi, comme ces gens de l'ONU qui croient que c'est les gendarmes du monde, qui croient qu'ils tiennent quelque chose. Ils comprennent pas que c'est des marionnettes dans ce monde-là. C'est des Yadarista d'Akadot Boku, Hachem y joue avec eux. Toi, tu crois que tu es un patron, que tu es un avocat, que tu gagnes de l'argent, tu peux mettre le monde dans ta poche, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Hachem, il m'a éclairé, il m'a sauvé la vie, Rabotai. Il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie que j'ai pu voir et m'asseoir et comprendre ce que c'est la vie, comprendre ce que c'est que le sroud de s'asseoir et d'étudier la Torah, d'être le Eved Hachem, le serviteur d'Akadosh Boku, de ne pas être le Eved de tes passions et tes pulsions, de ne pas servir ton Yetzera, de servir à la Torah. Et je vous dis, quand je pense à ça, la reconnaissance que j'ai envers Hachem, elle est éternelle et infinie. Et c'est pour ça que j'ai pris sur moi de tourner dans le monde pour aller dire mon histoire. Parce que j'aurais pu très facilement passer à côté. J'ai vécu une histoire incroyable. Je mettais des reprises de volée dans la lucarne, je marquais des retournées acrobatiques, des têtes plongeantes et tout ça. J'étais en nationaux au foot, dans une grande équipe et tout ça, je devais faire le sport études. Hachem m'a blessé pour ne pas que je rentre. J'étais au judo, j'étais pas dans les championnats de France, j'avais la ceinture noire. S'il y en a un qui se tient mal, je lui fais une planchette japonaise. Il sort par la fenêtre parce qu'on est au premier étage, donc ça va mieux qu'au deuxième. Il dit, j'ai fait des planchettes japonaises et tout ça, je terrassais plein de gens. J'ai fait des études, j'ai fait des majorations dans mes promotions, j'ai eu les meilleures notes dans plein de trucs et tout ça. Je vous dis, je suis passé par tous les chemins. Et je vous dis, le fait de pouvoir comprendre une petite parole de la Torah, une petite lumière dans la Gemara, quand j'ai commencé à étudier, je devenais fou, je devenais ivre de joie. Le Rav, j'avais envie de le Rav Yosef Ben Tata, il pourra vous dire, une fois, je me suis tellement énervé que j'ai failli transpercer le mur. Là-bas, il y avait un mur en placo plate, j'ai failli le casser le mur. Chaque fois que j'entendais quelque chose dans la Gemara, je devenais fou, je me projetais contre un mur où je prenais un ami, où je donnais des coups, je voulais grimper aux arbres, je voulais courir dans les rues. J'étais tellement euphorique et tellement heureux de la lumière de la Torah. Rabotai, on est les plus heureux du monde, sachez-le ça. Vous ne trouvez pas des gens heureux comme nous. Vous ne trouvez pas des gens heureux comme ceux qui étudient la Torah, Agdosha. Les gens qui sont dans les séminaires et dans les yeshivot et qui étudient, qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On te fait croire que tu vas être heureux si tu es un patron, que tu es un grand parrain de la mafia et tout ça, que tu es. Comment il s'appelle, Tony Montana et les siens et ça, je dirige le monde, je domine, c'est moi le parrain, Don Corleone et tout ça, c'est moi. Habibi, t'es rien du tout, t'es une poussière qui n'existe pas. Quand tu comprends que t'es rien, tu peux devenir quelqu'un. Parce que t'as vu que tu étais rien, t'étais juste la poussière, t'étais une petite goutte dans l'océan, t'étais une petite goutte dans l'éternité. Qu'est-ce que tu peux faire toi? Quand tu comprends ça, tu commences à faire la Torah et les mitzvot. Tu commences à faire rentrer de la lumière, tu fais sortir l'obscurité qui est en toi, toute la gava. Tout le fait de croire que tu es quelqu'un, que tu peux diriger, tu peux dominer, tu peux décider pour les autres. Toi, t'es mieux que l'autre, t'es plus riche que l'autre, tu peux l'écraser, tu peux ne pas lui manquer de respect. La Torah Akdosha Rabotai, elle nous sauve. Torah Chaim, c'est l'élixir de vie. Maim Chaim, c'est l'eau vive de la Torah Akdosha. Je vous dis, je suis passé par tous les chemins. Dans ma vie, je suis passé partout. Je vous dis, sauf d'avoir un et à l'humeur, mais de savoir qui c'est quoi la dame, comme Shlomo Melech. Il avait il avait des centaines de femmes. Il avait des centaines de chevaux. Il avait des milliards. C'était Ishachacham Mikoladam, il a dit à la fin du temps, Akol Evel Avalim, Akol Avel. C'est de la vanité, c'est de la pourriture, c'est rien. C'est de l'illusion que les serrailles te fait miroiter. Tu vas être heureux avec ça, tu vas être le plus heureux du monde. Tu fais la vera, t'es riche et tout ça, tu veux encore plus. T'es jaloux de l'autre qui a un peu plus. L'autre, il a un étage de plus là-bas à Manhattan, tu vas lui démolir son binyan pour que toi, que ton binyan soit le plus élevé. Il dit pourquoi? Akina, Aktava, Vakavod, Motsim, et Adam, Naolam. La jalousie. La ta'ava, les plaisirs et les passions et les pulsions de ce monde, et le kavod, la recherche des honneurs, elles expulsent l'homme de ce monde. Et quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, il n'a pas le remède pour lutter contre ce yetzera. La Torah, c'est l'élixir de vie. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu t'a sauvé, il t'a donné ce qui peut te permettre de te dépasser, de te dominer, d'aller plus loin que ton Yetzirara, d'être plus fort que lui, de le dominer, d'être heureux parce que tu te domines à toi et que tu vois, c'est la plus grande satisfaction et la plus grande joie du monde, Rabotai, de sentir qu'on se domine à nous, qu'on n'est pas le serviteur de notre Yetzirara. Et ça, c'est que la Torah Akdoucha qui m'a permis de faire ça. Il dit, moi, quand j'ai découvert ça, j'ai voulu le faire découvrir au monde entier. Chaque fois, j'allais, je faisais des shiurim, il y a des disques, il y a des trucs, il y a des internets, il y a des livres. J'ai dit, c'est pas possible, j'ai découvert un trésor qui a changé ma vie. Il dit, ce trésor qui a changé ma vie doit changer la vie de tous les frères. Parce que quand on a découvert quelque chose qui est extraordinaire, on veut le partager avec sa famille. Et vous, vous êtes ma famille, vous êtes mes frères. Quand je vois vos visages comme ça, que je vois que vous êtes venus et tout ça, je suis tellement content, je veux vous serrer dans les bras parce que vous êtes ma famille. Les frères du Ham Israël, Rabotaya, Israël Arim Zeladé, on est tous ensemble, on est tous liés. Vous comprenez ça? Moi, quand je vois un frère ou une sœur du clan Israël qui est dans le besoin ou qui a des difficultés, qui m'appelle, qui m'envoie un mail ou qui me dit voilà, j'ai ça, comment je fais, tout ça, je dis, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de me battre pour lui. Pourquoi? Parce que c'est mes frères, on est tous les frères du Ham Israël. Et grâce à quoi on a cette solidarité? Grâce à quoi on a cet amour? Qu'est-ce qui fait la différence entre moi et toi? Toi, je t'ai jamais vu de ma vie et je t'aime, comment ça se fait? Il dit, monsieur Gars, il dit, c'est vrai ou pas? Toi aussi, tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Tu es rentré directement, je sais que tu m'aimes, il n'y a pas de problème, je ne me pose pas de questions, je vais te serrer dans les bras, après tu vas voir comment tu vas aimer. Il dit, vous aussi, vous aimez, vous m'aimez, moi je vous aime et tout ça, comment ça se fait? Et monsieur Gabay, je ne l'ai jamais vu de ma vie de ça, je l'ai rencontré une fois, j'étais à la glacerie là-bas, à Bnei Brak, en train de manger une glace avec ma femme et tout ça. Je le vois là-bas, on s'est vu, on s'est aimé. Comment c'est possible une chose pareille? Aboudaï, si Amir n'avait pas la Torah Akdoucha, hein, qui le ciment du peuple d'Israël, jamais moi je me serais retrouvé avec toi, Habibi. Je t'aurais jamais connu, j'aurais jamais eu ce mérite. Moi je vous dis, j'ai des amis sans percher. Ce n'est pas des gens comme vous qui sommes des tzadikim, qui étudient la Torah, qui font les mitzvot et qui sont là, qui ramènent des gens pour étudier la Torah. C'est des gars qui sont perchés. Ils sont à l'Elysée, à Matignon, et c'est des attachés des ministres et tout ça. Les gars, tu ne les vois jamais à la synagogue. Chaque fois que je viens à Paris, les types, ils viennent, on est là, on étudie la Torah tous ensemble. Des types qui étudient à la yeshiva, des autres. Et je vous dis, moi, le shiur que je dis ce soir, je le dis à la yeshiva, pareil, la même chose que je vous parle avec eux, je le parle avec... Comment c'est possible une chose pareille? Quoi, si jamais tu vas en philosophie, tu peux parler à un étudiant de première année comme tu parles à un docteur en physique nucléaire. Le gars, il vient d'apprendre les additions, tu lui parles la même chose, c'est pas possible. Et la Torah, ça nous touche le cœur, ça nous touche la neshama, c'est ça qui est en train de vibrer en nous. Et un petit enfant, il peut vibrer comme un adulte, comme un grand gadol, comme un grand zaken, comme le Chazon Ish, on raconte sur lui. Chaque fois qu'il entendait des shiurim de Torah, il était fatigué, il allait devant le cheder. Il allait devant les enfants, il leur disait « qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui ?» Et l'autre, il lui récitait son verset qu'il a étudié dans la Torah. Le Chazon Ish, il avait étudié 50 000 fois ça. Khazoum, c'était un cerveau atsoum. Les professeurs du monde entier de médecine, ils venaient devant lui pour lui demander des conseils pour passer dans les opérations du cerveau. Les gars, une fois, il leur a fait un schéma, il a dit, celui-là, c'est pas possible, c'est un major de la promotion de médecine. Il a dit, vous avez déjà fait des études de médecine, il a dit, jamais touché à ça. Il dit, celui-là, il a fait des schémas que même les plus grands spécialistes du monde, ils pourront jamais arriver à faire. Ça veut dire, le Khazoum, c'était un génie, un géant de la Torah. Il arrivait devant les petits-enfants. Il a dit, qu'est-ce que tu as étudié? Il lui disait ça. Il dit, il était émerveillé comme s'il n'avait jamais entendu la chose. Pourquoi, Rabotai? C'est la Neshama Kdosha et Teroa qui est au fond de nous. Elle s'émerveille et elle s'émeut de la lumière de la Torah. Moi, je vous dis, il y a des fois, je parle, je vois des gens, des larmes qui coulent sur notre visage, sur mon visage à moi, sur le visage des autres. Comment c'est possible? Le gars, il ne fait pas la Torah, il ne fait pas les mitzvot, il ne fait pas le Shabbat, il ne fait rien, il entend les shiur de Torah, il pleure. Comment c'est possible? Il dit, le gars, il fait toute sa journée, il est en train de voir des ch'touillottes, il est en train de faire des bêtises, tout ça, il entend, attends, c'est la Neshama Kdosha et Teroa. Et Rabotai, c'est ça, cette Torah Akdoucha, c'est elle qui nous a sauvé la vie. C'est elle qui a fait en sorte qu'on était là. On lui doit tout. Et quand on comprend la reconnaissance qu'on doit avoir envers cette Torah Akdoucha, quand tu comprends qu'elle t'a sauvé la vie, alors toi aussi tu dois te donner ta vie pour elle. Et donner ta vie pour elle, c'est quoi? C'est pas se jeter dans les flammes ou se jeter par la fenêtre et tout ça. C'est marqué la Torah Elou Achokim, Amishpatim, la Torah, tout ça. Vechai Baem, c'est marqué. Tu vivras par la Torah, pas tu mourras pour la Torah. Et pourtant, c'est marqué. Elle n'a livré Torah Mitkaim, et là, Rabbi Ishmael, la Torah ne peut s'accomplir que dans celui qui est prêt à mourir pour elle dans l'attente. Tu dis quoi? Tu me dis de vivre par la Torah, non, tu me dis de te tuer. Khazanish, il explique une chose sur ça extraordinaire. Il dit, quand toi, tu as envie de faire quelque chose avec ton Yetzera, il veut que tu ailles manger le McDrive là-bas. Parce qu'il est 4h du matin et rien n'est ouvert, il n'y a que le McDrive. Je ne sais même pas si c'est ouvert à 4h, mais en tout cas. Là-bas, tu vas acheter des frites dégueulasses là-bas, avec l'huile où il y a eu de l'huile moteur avec du porcin de porcinet de Winnie l'ourson. Le gars, il a faim. Il dit, si jamais je mange pas, je vais mourir. Ou là-bas, il y a le bolide là-bas, la jolie fille, elle est passée dans la rue. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner la tête. L'autre, il tourne la tête pour voir la fille. Une robe là-bas, Christian. Il dit, toi, Yaakov, tu tournes la tête pour ne pas la voir. Il dit là, le monde entier, il est en train de reposer sur toi à ce moment-là. T'as eu le sroud où la fille, elle a chaud, il fait très très chaud et tout ça, elle a Bnei Brak, 50 degrés et tout ça. Elle va mettre la jupe longue et le truc, pas là, elle va le mettre ici. Elle va dire ça, c'est pour Akadosh Baruch Hu que je le fais, je vais mourir de chaud. Ça s'appelle que t'es mort pour Akadosh Baruch Hu. T'as tué tes passions et tes pulsions sur l'autel de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'on comptera pour toi comme si jamais t'étais mort pour Hachem Yidbarach. C'est ça, Adam Kiamoud Borel. Je suis prêt à sacrifier mes passions et mes pulsions pour Hachem, pourquoi? Parce que comme je sais qu'il m'a sauvé la vie, alors je dois être prêt à donner ma vie pour lui, comme le chien. On raconte qu'il y avait une histoire du chien dans la. Vous connaissez Mabrouk, de 30 millions d'amis. Voilà. Vous vous rappelez de lui? Ah, c'est lui, le berger allemand. Il était très sympa. Il dit Mabrouk, un jour il. Mabrouk, c'était un chien de 30 millions d'amis, tout ça. Une fois, il a vu son maître, il avait posé une bouteille d'eau, et il avait oublié de fermer la bouteille. C'était un verre d'eau même. Et on sait qu'un verre qui a passé toute la nuit, on n'a pas le droit de le boire. Le lendemain matin, on doit le jeter, on doit le renverser. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces d'impureté qui peuvent se déposer en lui. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on va voir la deuxième raison. Donc, le gars, il avait laissé son verre d'eau là-bas posé, tout ça. Le lendemain matin, Mabrouk, qui était donc éveillé, il montait la garde devant le verre d'eau. Dès qu'il a vu son maître s'approcher du verre d'eau, Mabrouk, il commence à s'énerver, tout ça, il commence à courir, tout ça. Hadidje, tout ça. Il commence à courir, tout ça. Ça, je vous fais un petit mime, quand même, vous comprenez de quoi il s'agit. Mais ouais, ça, la mise en scène. Donc le gars, il commence à s'énerver de ça, il commence à se dire, Mabrouk, le marboule, et tout ça, d'habitude, il s'est levé au net, Mabrouk, et tout ça, et comment ça se fait qu'il est là, et ça, pourquoi il est en train de. D'habitude, il dort à cette heure-ci, pourquoi il est déjà réveillé, et ça, il veut jouer, et ça, il s'amuse avec lui. Et ça. À un moment, il voit qu'il est en train de prendre le verre, vraiment, il s'est saisi du verre, Mabrouk, il saute, il lui donnait une coup de patte, la patte d'ours, tard, la manchette. Mabrouk lui a donné la manchette. Le verre, il s'est renversé par terre, et il y avait le verre là-bas, il était posé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? L'autre, il allait pour prendre le verre. Mabrouk, il s'est jeté sur le verre, il l'a bu. Quelques secondes plus tard, à Boutaï, c'est le drame, comme dans la nuit des héros. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mabrouk, il est mort sur place. Arrêt cardiaque de Mabrouk. Je sais que ça vous fait de la peine, et ça, moi aussi, j'étais plus triste que vous quand j'ai entendu cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le maître, il s'est dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a, Mabrouk, et tout ça. Il a vu un serpent qui s'est échappé de la maison. En fait, là, il a commencé à faire la relation de cause à effet. Il a vu qu'en fait, le serpent, il avait bu dans l'eau, donc il avait mis du poison dans le verre. Et Mabrouk, pourquoi il était si énervé que son maître y boive pas? C'est parce qu'il voulait pas que son maître y meure. Et Mabrouk, en bouteille, il a été prêt à donner sa vie pour sauver la vie de son maître. Pourquoi il a fait ça à Mabrouk? Parce que Mabrouk, il sait qu'il doit la vie à son maître. C'est l'animal le plus fidèle. Kelev, coule au lèvres, entièrement cœur. Il est coule au lèvres, le chien. Pourquoi ça? Pourquoi il est fidèle comme ça? Parce qu'il sait qu'il dépend de son maître. Son maître, il est nourri. Son maître, il lui donne tout. Et on le voit, le maître il lui envoie une balle de tennis sur la plage, le chien tout de suite, mon maître Rav Emmanuel Toledo chez Badel Echaim Tovim, il m'a expliqué, tu lui envoies ce chien là, la balle sur la plage, tout de suite il va courir le chien, il prend la balle, il la ramène. Comment ça se fait qu'il revient? Et il se met comme ça, il s'allonge devant toi. Le chien il sait que c'est son maître qui lui donne à manger. Et le chien il peut être affamé pendant 3 jours, il peut ne pas manger. Et le chien c'est pas un chasseur. Donc il sait que si c'est pas son maître qui le nourrit, il n'aura pas à manger. Donc il sait qu'il doit être prêt à donner sa vie pour son maître. Et Mabrouk, il a sacrifié sa vie pour sauver la vie de son maître parce qu'il sait qu'il doit la vie à son maître. Il dit de la même façon à la Khatka Kamal, il a Gmar dans Yerushalmi. Il y a quelqu'un qui comprend une chose pareille. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le patron de l'univers. C'est lui le maître de l'univers. Il m'a sauvé la vie. Il m'a donné la Torah. J'aurais pu être comme une béhéma des nations, comme une bête, comme un marboule, comme un mzrob. J'aurais pu vivre toute ma vie dans l'illusion, dans les ch'touyot, dans l'obscurité. Hachem, il m'a donné la Torah, Gdosha. Je dois être prêt à lui donner ma vie puisqu'il m'a sauvé la mienne. De la même façon que ce Mabrouk là. C'est pour ça qu'on dit Mabrouk à Alik. Il dit, pourquoi on dit Mabrouk Ali? Vous avez déjà demandé la question. Ça, je l'ai découvert hier. Mabrouk, tu lui jettes les clés, tu dis Mabrouk Ali, amène-moi les clés. C'est pour ça qu'on dit Mabrouk Ali, en fait. Tu dis Mabrouk, amène-moi les clés, en fait. C'est pour ça. Donc toi, tu lui lèves, et lui, il vient. Tu lui lèves, il vient. Pourquoi? Et il s'allonge comme ça devant toi. Pourquoi il s'allonge comme ça devant toi? Parce qu'il sait que tu lui as sauvé la vie. Donc comme tu lui as sauvé la vie, donc lui aussi, il est prêt à sacrifier sa vie pour toi. Pour terminer, mes amis, on voit donc que. Ces éléments dans lesquels Amalek, je vois que vous ne comprenez pas l'anglais parce que sinon vous auriez rigolé à cette blague. Cette blague, quand je l'ai fait, j'ai vu qu'il y en a qui sont dirigés vers les toilettes. Parce qu'ils ont tellement rigolé qu'ils ne pouvaient plus se retenir, alors ils sont partis là-bas. Alors, ça y est, je l'ai fait déjà. Tu réécouteras mes ordres sur internet, c'est à la minute 73. 73 et 49 secondes. Donc, je vous disais, donc on voit que Amalek, il attaque par 3 choses. Il attaque par la Torah, il attaque par la Emouna et par les poids. Donc, on a dit la Emouna et la Torah. Et j'ai découvert aujourd'hui, mais c'est un quelque chose d'extraordinaire. c'est que la Emouna et la Torah c'est lié l'un à l'autre. Il dit, c'est quoi la Emouna et c'est quoi la Torah, Rabotai? Écoutez bien la fin du shiur, comme ça vous sortez avec une arme pour pouvoir vous battre contre les Sarah et remporter l'épreuve de la fin des temps, qui est le fait de continuer à croire en Hachem. Il dit, quelle est la relation entre la Emouna et la Torah? C'est qu'en fait, comment on fait qu'un homme, il est triste? Et comment on fait qu'un homme, il n'a pas la Emouna et qu'il n'a pas la Emouna? Un homme qui ne fait pas la Emouna, c'est qu'il a pas, il a un Safek. Le Safek, ça vient de quoi? Ça vient du fait que l'homme, il doute. Et la gématria de Amalek, on sait que c'est Safek. Et la gématria du dollar aussi, c'est Safek. Vous savez? Parce que le dollar, il est en train de chuter. Ça, c'est la même gématria. Dollar, Amalek et Safek. Parce qu'il y en a qui placent leur confiance dans le dollar. On te dit, de la même façon que c'est un Safek, Amalek, c'est un doute. De la même façon, le dollar, c'est un doute. Mais Kadosh Baruch Hu, c'est le Vadaï. C'est la seule chose. Donc, il dit, quelqu'un, il a des doutes dans sa vie. Ouais. Ça vous a plu, cette gématria? Je savais que vous n'étiez pas au courant, mais je vous l'ai dit en avant-première ce soir, à Sarcelles. Ça fait plaisir. Alors vous comprenez Rabotai, il dit le gars il a des doutes sur l'existence de Dieu et de ça, donc il a des problèmes de Emouna. Pourquoi il a des problèmes d'Emouna? Il dit parce qu'il n'a pas assez étudié la Torah. Il dit quand tu as des doutes, la seule chose qui peut lutter contre le doute c'est le Vadaï. C'est quoi le Vadaï? C'est la certitude. La seule certitude dans le monde c'est la Torah. Donc plus tu fais rentrer de la Torah, plus tu as des forces pour lutter contre le doute et plus tu as de la Emouna. Donc quand tu te renforces dans la Torah avec deux chats, alors Mimela, tu te renforces également dans la Emouna. Et les deux choses, elles sont interactives l'une et l'autre. Donc c'est le même pôle. Celui qui travaille sur la Torah et qui se réchauffe dans le Moussa, il peut réussir à la fin des temps à tenir cette Emouna qui lui permettra de surmonter la fin des temps. Et on voit dans la guerre contre Amalek. C'est marqué la Gemara dans Masoret de Rosh Hashana, la page 29 au lieu 1. Elle dit là-bas que Moshe Rabbeinu, quand il a lutté contre Amalek, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, quand il levait les bras au ciel, les Bnei Israël, ils gagnaient la guerre. Quand Moshe Rabbeinu, il baissait les bras, alors les Bnei Israël, ils perdaient la guerre. Il dit comment ça se fait? La Gemara, elle dit quoi? Moshe Rabbeinu, c'est un marabout africain. Il dit quoi? Quand il lève les bras, il dit il gagne. Et quand il est en train de baisser ses bras, il est en train de perdre. Qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Et là, la Gemara, elle répond, quand les Bnei Israël, ils tournaient leur cœur vers Akadosh Baruch Hu, leur maître qui est dans le ciel. Alors là, à ce moment-là, les Bnei Israël, ils assujettissaient leur cœur à Hachem, qui est le maître de l'univers. Ils disaient, la guerre, elle dépend d'Hachem, comme on a vu au début du shiur sur les Bnei Israël au temps de Purim et sur les Bnei Israël quand ils ont fait le Korban Pessah. Ils ont dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige les guerres. Là, à ce moment-là, ils gagnaient contre leurs ennemis. Mais quand Moshe Rabbeinu baissait les bras, les autres, ils voyaient les forces de leurs mains. C'est la force de mon poignet, c'est la force de mes mains qui gagne et tout ça. Alors là, à ce moment-là, les Bnei Israël, ils perdaient la guerre. Et Rabotai, c'est le Yesod. Il nous dit le Chafetz Chaim et le Gaon de Vilna, ils nous disent que c'est marqué Varia Kasher Yarim Moshe et Yadav. Quand Moshe Rabbeinu il lèvera ses mains. Et tous les Mifarshim ils se demandent comment ça fait que c'est marqué au futur. Pourquoi c'est marqué il lèvera ses mains dans le ciel? Comment ça, qu'est-ce que ça veut dire lèvera? Quand Moshe Rabbeinu il leva ses mains, alors les Bnei Israël ils ont gagné. Et dans chaque génération à Botaï, on aura des Gdolé Ador, on aura des maîtres de la génération. Ils vont lever leurs mains, ils vont diriger le peuple, ils vont nous éclairer, ils vont nous guider dans la bonne direction pour pouvoir être sauvés de l'épreuve de la fin des temps. Et comme la Gemara dit dans Maseret Sanhedrin, qu'est-ce que fera l'homme pour être sauvé à la guerre de Gog Magog? La Gemara dans Sanhedrin, ça dit page 98, Yashok Batorah Begmilut Hasadim. Il va se renforcer dans la Torah et dans la Gemilut Hasadim. C'est quoi? La Torah, c'est la Emouna. On a dit que c'est le renforcement de la Emouna et du Bitachon Bashem. Il dit, tu dois voir le Rav. Il dit, à la fin des temps, vous savez ce qui va se passer? Il va y avoir un conflit et une guerre. On voit que Yaakov Avinu, quand il s'est battu avec l'ange de Esav, il a commencé à l'empoigner, ils se sont battus, il y a eu de la poussière qui est montée jusqu'au Kisseh Kavod. Rav Elchanan Wasserman, qui était un des Talmidim du Chafetz Chaim, un grand Gadol Batorah, il a dit Rav Elchanan Wasserman, il dit ça ressemble à quoi? Ça ressemble à l'épreuve de la fin des temps. Plus on va aller, et plus il y aura une obscurité, et plus on sera dans l'Ester Panim. Akadosh Baruch Hu va se voiler, il va se cacher. On va être dans une situation de prochère très 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 difficile et très très grave. Ça va être un massacre très difficile. Et cette poussière-là, elle va monter jusqu'au Kisseh Kavod, il va y avoir un brouillard total et absolu. Il dit comment? Et on a vu que l'ange de Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé le nerf sciatique. C'est quoi le nerf sciatique? C'est la foi dans les sages. Parce que la cuisse, c'est la base de toute la tenue du peuple d'Israël. Et on sait que la tenue du peuple d'Israël, c'est quoi? C'est les sages d'Israël. Donc il dit, comment on va faire pour pouvoir survivre quand tu auras ce grand brouillard? On devra s'attacher au phare de la génération, aux lumières. On vit dans l'obscurité, mais avec des repères éblouissants. C'est quoi les repères éblouissants? C'est la Torah Kdosha et les tenants du pouvoir, c'est les Bnei Israël. Les Bnei Israël, Kdoshim et Théorim, c'est nos maîtres de la génération. Le Rav Chaim Kanievski, le Rav Steinman, tous les Gdolim, le Rav Yechiel Brandt aussi. Vous avez un grand Gadol Batorah. Vous imaginez pas comment vous avez un Gadol Batorah ici dans cette ville de Sarcelles. C'est un génie, un tzadik atzoum, Rav Yechiel Brandt. Vous avez, ces gens-là, ils nous diront dans quelle direction on doit aller. On devra les suivre. Celui qui le suivra, Sadik, Bemunato Yechiel. Si jamais il est tzadik, ça veut dire quoi? Qu'il a confiance dans les chachamim. Alors grâce à sa foi dans les sages, il pourra vivre. Et il dit c'est ça que Kachar Yarim et Yadav. Pourquoi c'est marqué au futur? Parce que dans chaque génération, on aura un rav qui lèvera les bras et qu'on pourra le suivre et grâce à lui, on aura la vie sauve. Et pour terminer, on sait que les Bnei Israël, la survie, elle dépend encore une fois, on est dans une situation difficile. Vous savez, j'ai entendu en arrivant ici que la situation géostratégique et géopolitique, elle est des plus dégradées. Moi, je vous dis, j'ai gardé des relations avec les gens dans les relations internationales et tout ça, quoi, dans lesquelles j'étais avant et tout ça. Et ils m'ont dit que le Matzav, il n'a jamais été aussi préoccupant qu'aujourd'hui. Il y a les gars qui sont en train de s'armer avec la bombe atomique. Les autres, ils sont en train de vouloir déclarer la guerre ouverte à Israël. Les autres, ils sont en train de s'armer. Les autres, ils sont en train de se faire ravitailler en missiles, en tilim, dans tous les trucs et tout ça. Et c'est un Matzav caché, mais autre à Boutaï. Il faut beaucoup de Rachmé Shamaï, il faut beaucoup se réveiller. Et un jour, il y a Bilam. Il est rentré, il a demandé à un sage, il a dit, est-ce qu'on peut attaquer les Bnei Israël? Il lui a dit, le Midrash, il dit, Akol kol Yaakov yadaim yedesav. La voix, c'est la voix de Yaakov, et les mains, c'est les mains d'Esav. Et le Midrash nous dit, quand la voix, c'est la voix de Yaakov, quand c'est la voix de Yaakov qui retentit dans les Batei Knesset et les Batei Midrashot, et la voix de Yaakov, c'est pas que la voix de Yaakov, c'est la voix des filles aussi. C'est-à-dire qu'elles vont dire des Tehillim, elles vont prier à Kadosh Baruch Hu, elles vont supplier, elles vont implorer, tout ça. Akol kol Yaakov ayadaim yedesav. Si elle met la voix, c'est la voix de Yaakov, alors elle ayadaim yedesav. Les mains, c'est pas les mains d'Esav. Ça veut dire quoi? Il lui a dit comme ça. Il a dit, si jamais tu vas dans les Batei Knesset et les Batei Midrashot, tu vas dans les maisons d'études, si jamais tu entends la voix des enfants qui retentit, qui sont en train d'étudier la Torah et les mitzvot, il dit, sache que là tu es intouchable et que personne ne pourra rien faire contre vous. Les ennemis, tu ne pourras pas attaquer le Am Israël. Mais si tu vas dans les maisons d'études et tu vois que les gens ils se sont affaiblis, rafouillés des Amina Torah, comme on a dit sur Amalek, ils se sont affaiblis les mains dans l'étude de la Torah et tout ça, ils se sont affaiblis dans leur bitachon, dans leur emouna, donc ils ne crient pas, ils sont en train d'être froids et tout ça, ils se sont fait refroidir par le Amalek qui leur a mis un safek, un doute, qui les a frigorifiés. Enfin, le Mr. Freeze, ouais, ça fait plaisir. Donc, comme le Mr. Freeze, ça, le gars, il est resté là-bas, il est resté froid comme des morts et tout ça. Il dit, là, à ce moment-là, tu peux les attaquer. Pourquoi? Parce que si la voix, c'est pas la voix de Jacob, elle ne ressentit pas, alors les mains, c'est pas les mains des saints. Et donc, le gars, il a entendu ça. Il est allé voir, il a entendu la voix des Israël qui retentissait, alors là, il ne pouvait pas. Avoda, c'est la fin des temps, elle dépend de ça. À Kol, Kol, Jacob, il y a des imides des saints. Si jamais mes frères, on se renforce et on fait entendre dans les maisons d'études la voix d'Akadosh Baruch Hu, la voix de la Torah, la voix des mitzvot, et qu'on se renforce et qu'on fait Misirut Nevesh pour étudier et pour faire entendre la voix de la Torah dans le monde et pour approcher nos frères qui sont loin et pour nous renforcer et pour pouvoir mettre tout notre cœur à Akadosh Baruch Hu. Il dit tous les peuples des nations, ils pourront s'unir, ils pourront se mobiliser avec toutes leurs armes, comme on a dit tout à l'heure. Ils pourront venir avec 40 millions contre nous. Ils pourront venir avec les armes les plus sophistiquées. En davar. Akadosh Baruch Hu, il te protège parce que Etorah ve Emitvah de Magen Olam. La Torah et les Mitzvot, c'est un bouclier contre le Geinam. Rabotai, c'est plus une question d'armée, c'est plus une question de force physique. La bombe atomique, t'as beau avoir, je vous ai dit tout à l'heure, les plus grandes armes, les plus grands patrons de ils sont sophistiqués, ils connaissent les trucs. On t'envoie la bombe atomique, tu peux rien faire. Il dit que c'est Akadosh Baruch Hu, si tu trouves grâce à ses yeux, Hachem, il te protège, il met un bouclier sur toi, il est avec toi, il est à tes côtés, et il t'arrivera rien de mal. Mais si avec toi, tu te dis, non, c'est les armes qui vont m'aider, c'est ça, c'est ci, Habibi. Les gars, ils tirent sur les toits des hôpitaux. Les Palestiniens, quand ils envoient des missiles, ils envoient sur les toits des hôpitaux. Et les autres, ils sont dans les jardins d'enfants en train d'envoyer des missiles là-bas. Ils disent que tu vas tirer sur les hôpitaux et sur les missiles. Et non, c'est pas possible. Nous, on est des gens qui respectons les droits de la déclaration de l'ONU et tout ça. C'est pas grave si on perd des soldats sur le front. L'essentiel, c'est qu'on respecte et qu'on soit honorable et respectable aux yeux des nations, aux yeux des peuples, ça. Mais c'est pas grave, sinon on envoie nos enfants en lâchant un canon et tout ça. La Torah, elle te dit le contraire, elle te dit Hayecha Kodmim, tu dois protéger et préserver ta vie avant les autres. Les autres te disent non, il faut qu'on ait une bonne image à l'ONU, qu'est-ce qu'ils diront de nous si jamais ils voient qu'on a commencé à tirer sur des gens. Habibi, le gars, il abat leur guichach, quand même leur go. Si jamais il est venu pour te tuer, tu dois te lever, le tuer en premier. Mais eux, ils en ont rien à faire de ça. Quoi qu'il en soit, ils ont choisi cette voie-là, Rabotai. C'est la voie de la diplomatie. On sait qu'on ne peut pas les attaquer, c'est plus une guerre géopolitique. Il y avait le chef d'état-major qui s'appelle Dan Khalutz. Après la guerre du Liban, il s'est enfui aux États-Unis. Il est allé chez notre Rebbe, le Rav Moshe Kaplan, à Purim. Il lui a dit, sachez une chose, nous savons qu'aujourd'hui, la guerre, elle n'est plus entre les mains de l'armée. La guerre, elle est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit, Anachnu maminim bnei maminim ve'en lanu al mileishan ela lavinu sheba shamaim. Nous sommes des croyants, fils de croyants, et on n'a personne sur qui reposer si ce n'est Akadosh Baruch Hu qui est dans le ciel.
On a besoin de Rachmé Shamaïm, Rabotaï, des gens qui sont très loin de la Torah, qui sont des géostratèges, des politiciens, des gens qui sont très importants dans l'armée, dans le combat. C'est le mec qui connaît le mieux l'armée. Il te dit, c'est pas possible, avec l'armée, on peut pas s'en sortir aujourd'hui. Parce que c'est plus une guerre de confrontation frontalière de homme à homme. C'est une guerre par les missiles, c'est une guerre à distance, c'est une guerre géostratégique, c'est une guerre géopolitique, ça envoie par les bombes. Ils avaient dit une fois, Nasser, il a dit, si jamais tous les Arabes du monde y venaient, juste si jamais ils crachaient sur Israël, tous les voisins qui sont autour de nous, on serait morts noyés. Il dit, qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Tu crois que tu vas venir avec tes armes, avec ta puissance, avec tes forces? Alors toi, le tzadik, et toi, la tzadikette de Sarcelles, t'es assis ici, tu viens au Beth Amidrash, tu viens là-bas, Beth Knesset, tu rentres chez toi, tu fais des Tehilim, tu pries à Kadosh Baruch Hu. Tu es en train d'étudier une passe de Gemara, tu fais un Tehilim. Si jamais tu ne sais pas étudier la Gemara, tu fais un Tehilim. Tu pries pour tes frères du Ham Israël. Tu fais la Tzniut, tu fais les mitzvot, tu fais Shmirat Enaim, tu fais Shmirat Alashon. Tu meurs pour Akadosh Baruch Hu, tu tues ton Yetzirah pour Hachem, tu le sacrifies. Habibi, c'est toi qui fais partie de l'armée de l'air. Tu es le patron de l'armée. C'est toi, grâce à toi, la guerre, elle est en train de se mener par les mérites. On sait que c'est marqué Réchit Goïm Amalek. Les prémices des Goïm, c'est Amalek. Amalek, quand est-ce qu'ils attaquaient le peuple d'Israël? Quand on fait des Averot. Dès qu'on fait des Averot, ils nous frappent. Si t'as des Shrouyot dans le ciel, notre ange, il gagne contre les autres et on les gagne. Mais si jamais t'as pas de Shrouyot, alors tu te fais attaquer, tu te fais esquinter. Et pour terminer, je vous raconterai une histoire du Rav Shach. Le Rav Shach, une fois, il était en train de dire un Shiur Klali à Poniovitch, comme tous les mardis, devant tous les milliers d'élèves à la Yeshiva. Tout le monde venait l'écouter, tout le monde venait l'entendre et tout ça. Et il a commencé à dire un pshat dans la Gemara, un shiur extraordinaire, il a trouvé un chemin magnifique là-bas, un chemin merveilleux. Il leur a dit, Rabotai, ce pshat, il est capable de faire tomber un missile dans la mer. Il dit, attends, là, le Rav, il a exagéré, là, il est devenu fou, et tout ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire, quoi, il fait tomber un missile dans la mer, et tout, le Rav, il a abusé un peu, là, il était un peu marseillais sur les bords, sur ce coup-là. Il ne faut pas prononcer ce mot, je sais, à Sarcelles, mais bon, on ne sait jamais. Donc c'est l'Olympique. Donc il dit celui-là, il est un peu fou. Il a dit comment ça se fait qu'il est en train de dire ça, le rave et tout ça. Il a pas compris ce qui se passe. Quelques secondes plus tard, il y a une sirène qui a retenti. C'était pendant la guerre du Golfe. Tous les Bakhourim sont descendus dans le bunker. 15 minutes plus tard, ils entendent à la radio le missile. Il est tombé. Ils ont dit où est-il tombé? Il est tombé dans la mer. Rabotaï. C'est une histoire vraie qu'on a vécue, qu'on a vue, qu'il y a eu des témoins oculaires qui l'ont vue. C'est ce qu'il faut se renforcer, mes chers frères, mes chères sœurs. Le fait que la guerre, elle est entre nos mains. Nos ennemis vont se lever contre nous. À la fin des temps, on a dit qu'ils vont essayer de nous achever, de faire des traitements difficiles. Ils vont nous dire de choisir entre la vie et la mort, entre Hachem et la conversion à d'autres religions et tout ça. Il dit, celui qui s'est renforcé toute sa vie et qui a pris conscience que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si ce n'est dans la vérité et qui a vécu et qui était bien dans la vérité. Il vous dit, on est tellement ivre de joie et tellement heureux et tellement euphorique de vivre dans la Torah que il peut nous arriver quoi que ce soit. On est tellement content. Quoi. Je vais vendre ça pour quoi? Pourquoi je peux vendre mon statut de fils d'Hachem? Je suis la fille du roi. Je suis le fils du roi. Je suis le plus riche de l'univers. Je suis le plus grand patron de ce monde. C'est moi. Il dit, je suis le fils d'Hachem Idbar, le fils du roi. Vous rendez compte le mérite qu'on a et la responsabilité qu'on a. Le Kiddush Hachem et le Chilul Hachem, Rabotai, c'est les grandes mitzvot et les grandes avérot de la Torah. Toi qui as le sroud d'être religieux, tu dois être un exemple pour tous ceux qui t'entourent. Quand les gens ils te voient, tu dois leur donner envie de te ressembler. Tu dois leur donner envie d'être comme toi, d'être épanoui, d'être content, d'être heureux dans la Torah. Le gars il fait la Torah, il est malheureux, c'est du Chilul Hashem. C'est ça les gens qui font la Torah, c'est ça, les enfants ils sortent du chemin. Oh oui, autant on voit parfois des enfants qui sortent du derrière la Torah, parce que voilà, leurs parents ils sont pas épanouis dans leur pratique de la Torah. Mais si jamais ils voient leur père, il est marboule, il met le Shtreimel, il se roule par terre, il est content, il sait que c'est le plus grand milliardaire du monde, il sait qu'il a gagné au loto de voir Akadash Baruch Hu. Il dit c'est le plus heureux du monde, c'est le plus riche, il n'y a personne, il n'y a rien qui peut l'enlever de là. Et pour terminer, mes frères, c'est la dernière chose que je voulais vous dire, l'histoire de mon père à la Vachalom, parce que c'est une histoire qui renforce beaucoup. Moi, comment j'ai eu le mérite de me réveiller et comment Akadash Baruch Hu m'a sauvé de là. Comment je suis allé la première fois à la Yeshiva et tout. Il dit, j'ai eu mon papa à la Vachalom, c'était un grand tzaddik, il y a sa photo aussi à la fin, parce que c'est un de mes rabbanim à moi, c'est lui qui m'a enseigné le bitachon et la emouna à Hachem. Les chachamim, ils m'ont enseigné la emouna, c'est la théorie, et mon père, il m'a enseigné le bitachon, qui est la pratique. Comment on se comporte et comment on vit les épreuves de la vie. Il était malade, et quand on a découvert sa maladie, je vous dis, j'étais rentré d'un séminaire de leadership et tout ça, que j'avais donné un voyage de solidarité qu'on avait organisé en Israël avec plein de gens et tout ça, qui se rendaient les noms et tout ça, et qui faisaient les maîtres chacals et les siens et tout ça, je vous ai raconté tout ça. Sois le bienvenu, mon frère.
C'est la fin du chiot, on t'aime tellement qu'on te l'accueille comme ça.
J'aime pas là, c'est le meilleur. Je crois que ta place est sur la fin. À côté de moi, comme ça, après, je peux t'embrasser encore. Si j'ai pas eu le temps devant les gens, et que ça, j'avais un peu. Alors, vous comprenez, Rabotai, mon papa, la Vachalom, je suis revenu de ce séminaire de formation des cadres et tout ça. Et on m'a mis là-bas dans un balcon. Je me rappellerai toute cette vie, toute ma vie de ça. Et on m'a dit, voilà, le matzav, il est difficile. Les médecins, ils disent qu'il y en a pour 6 mois. Il faut faire quelque chose. Rabotai, quand j'ai entendu ça, je dis, cette épreuve, c'est mon épreuve à moi. Et dans la vie, il y a deux façons de gérer les choses. Soit tu te mets un joint et tu te mets en décalage avec la réalité. Tu vas jouer aux cartes, tu te mets dans des univers parallèles, tu te vois des films, tu te fais des chpouillottes, tu te mets avec Jacqueline sur MSN Messenger et tout ça, tu passes toute ta vie. Tu passes toute ta vie à ne rien faire et tout ça, donc tu subis la vie, quoi, finalement. Donc tu comprends pas, tu vis pas en fonction de la réalité, tu t'enfuis. T'es sur Facebook et tout ça, ouais, je suis un beau gosse et tout. Ouais. Donc c'est, moi j'ai pas de fiche Facebook, mais s'il y en a un qui veut s'occuper de ma communication et de ça, il est le bienvenu parce que c'est pour vendre la Torah, alors c'est Kadosh et Dieu. Donc il dit, le gars il est en train de faire et de ça, des chpouillottes. Dans la vie, il y a deux solutions. Tu vois la réalité en face de toi, soit tu te décales de la réalité. Et toi, tu vois que t'es pas en phase de la réalité. Soit tu te décales de la réalité encore plus, tu te prends encore des substances illicites et tout ça. Le toxicomane là-bas, le chanvre doux, chanvranien. Donc le gars, il commence à prendre des substances illicites et tout ça. Soit tu te prends en main, tu te décales pour te mettre en phase avec la réalité. Moi, Baruch HaShem, si Atadi Shmeya, Akadosh Baruch Hu, il m'a aidé. Je dis, voilà, je vois que cette épreuve, c'est mon épreuve à moi. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se renforce et qu'on fasse quelque chose. Il dit, d'après les lois de la nature, ouais. C'est pas possible. Pour changer les lois de la nature, nous aussi, il faut qu'on fasse quelque chose qui est impossible. Parce que c'est comme ça. Si jamais la chose elle est normale, alors toi tu fais quelque chose de normal, ça va, ça passe. Mais si quelque chose elle est anormal, pour réussir à renverser la tendance, il faut que toi aussi tu fasses quelque chose qui est anormal, les gamins, un truc de ma boule. Ça veut dire, moi je me suis dit, c'est comme ça que ça va se passer. Je vais consacrer ma vie à Hashem. Je vais donner ma vie à Kadosh Baruch Hu. Fini les ch'touillottes et tout ça, je vais me ranger, je vais réussir et ça. J'étais populaire et tout ça, je vais me cacher, je vais aller à la yeshiva. Je vais commencer à étudier la Torah. Et le lendemain matin, j'ai commencé, Ben Adam, Alechal Nirdam, j'ai commencé à pleurer. J'ai fait les stichot. J'ai demandé pardon à Hachem. J'ai entendu cette voix, Ben Adam, Alechal Nirdam, Kum Kera Betachanonim. Et je suis allé, je me suis levé au stichot. J'ai commencé à supplier Hachem Idbarach qui protège mon père. Pourquoi Rabotai? Parce que je savais que mon père, il m'avait sauvé la vie. Qu'il avait tout fait pour moi. Toute sa vie, j'ai eu besoin de lui. Et maintenant qu'il avait besoin de moi, j'allais lui tourner le dos. Je me suis dit, c'est mon épreuve à moi. Il faut que je le fasse pour lui. Les man, pour lui rendre tout ce qu'il m'a fait. Alors je dois être prêt à donner ma vie. Et Rabotai, Bessiatadi Shmaya. J'étais à l'université, les rabbinis m'ont dit de terminer. Dès que je sortais de l'université, c'est pour ça que je voulais vous dire, ne croyez pas, ouais, lui, ça, il est à la yeshiva, donc c'est normal, il parle comme ça. J'étais à l'université encore 2 ans de tol, 2 ans de prison encore supplémentaires, que les rabbinis m'ont dit, il ne faut pas que tu sortes en plein milieu de tes études. Il faut que tu montres qu'on ne choisit pas la Torah en désespoir de cause. On peut être le parrain, réussir brillamment ses études et choisir le derrière la Torah parce que c'est les meilleurs qui font la Torah, c'est pas celui qui a raté sa vie. C'est celui qui est le plus grand patron, lui il a choisi le meilleur chemin. Parce que la Torah c'est la chose la plus élevée. Donc ils m'ont dit fini, ça fera un grand kiddush Hashem dans le monde. Les gens quand tu iras parler, tu diras ouais, je suis maître en droit international et ça les gars disent ah ouais, il est bon lui et tout ça. Habibi, moi les gars de Poniovic qui ont étudié depuis leur plus jeune âge, ils peuvent jouer au golf avec moi. Ils peuvent jouer au billes avec moi, je suis de la poussière à côté d'eux. Malheureusement on est dans le Alma des Chikra, dans le monde du mensonge. Et les gars, ils croient, voilà, ouais, lui, il a fait des études, il est respectable, il est honorable et tout ça. J'ai perdu du temps dans ma vie. C'est comme ça, Kadosh Baruch Hu, il voulait que je passe par là, donc c'était comme ça qu'il fallait que je fasse. Et comme ça, je peux ramener des gens et tout ça, qui croient que dans les études et tout ça, et tu peux leur montrer que finalement, c'est pas ça. Ouais. Donc moi, je me suis dit, je vais commencer à l'étudier. Il m'a dit non. Le rabbi m'a dit, tu finis tes études, 2 ans. Chaque fois, j'allais à la yeshiva pendant 3 mois. Je rentrais à la yeshiva à Rabotai. Je me suis dit, moi, puisque je dois sauver mon père, il faut que je me mette le compte comme il faut. J'ai vu un commentaire dans la Gemara dans Masechet Brachot au début et tout ça dans le premier chapitre. Rabbi Eliezer, il est rapporté le premier. Pourquoi? Parce que c'était le premier à rentrer dans le Beit HaMidrash et le dernier à sortir. Il dit, moi aussi, je vais faire ça pour mon père. Je serai le premier à rentrer le matin et je serai le dernier à sortir. Même si jamais je dois être épuisé, je dois dormir dans le Beit HaMidrash, je me battrai pour rester. Et tous les jours, j'étais là-bas, j'étudiais Bemé Sirut Nefesh de tout mon cœur, de toutes mes forces, jusqu'à ce que j'ai plus de kohot, jusqu'à ce que j'ai plus de force. Et après, chaque fois que je rentrais en France, j'allais à l'université et je courais vite au Beit HaMidrash dès que je terminais l'atoll. Je sortais de prison, je courais là-bas à la maison d'études, comme David Ameller, Nirsefa Vegan Kaltanafshi. David Ameller, il est en plein milieu du désert. Il n'a pas bu depuis plusieurs jours, et qu'est-ce qu'il dit? Mon âme, elle est assoiffée de toi, Kadosh Baruch Hu. David Ameller, il a soif d'Hashem Yitbarach. Il a soif de s'attacher à la lumière divine. Il a soif d'être avec Hashem Yitbarach. Il n'en a rien à faire de l'eau. De la même façon que la biche, elle aspire au cours d'eau, mon âme, elle aspire à toi, ô éternel mon Dieu. dit, moi je sentais ça, je courais vite au Betamidrash, j'étais fou de joie, je le retrouvais. Parfois j'avais pas de rabbani avec qui j'étudiais avec Rashi. J'ouvrais le Rashi, j'étudiais la traduction de Rashi et tout ça, j'étudiais. Je faisais chaque jour la montée de Rashi, j'essayais d'étudier des choses et tout ça, je comprenais pas tout. Je faisais des halakhot en français, j'essayais de me purifier. Après, dès que je finissais, j'allais vite mes trois mois d'aller à Ibiza et tout ça, de danser comme un marboule et tout ça avec le doigt vers le haut pour montrer ce qu'il allait m'arriver, ce qu'il allait. Quand j'allais arriver dans le ciel, j'avais fait tchouva, il m'arrivera plus rien. Parce que celui qui fait tchouva, on lui fasse toutes ses fautes. Il dit, j'allais vite au Beit HaMidrash, je m'asseyais là-bas, j'étais content, vite, j'allais à la yeshiva trois mois, je prenais des kohot pour toute l'année. Et je rentrais, j'enseignais la Torah aux amis qui étaient avec moi à l'école, à Otsara Torah, là-bas à Toulouse, j'essayais d'aider les gens qui étaient autour de moi. Et je vous dis, pendant ce temps-là, je me suis renforcé. Après, je priais tous les jours avec des larmes qu'Akadosh Baruch Hu me permette de m'asseoir dans les temples de la Torah et Hachem m'a entendu ma prière. Au bout d'un certain temps, en ce temps-là, je me suis séparé de ma fiancée. J'étais avec elle depuis très longtemps et tout ça, qui est devenue ma femme. 3 ans, on s'est séparés. Elle est allée 3 ans au séminaire, moi je suis allé 3 ans à la yeshiva, on s'est retrouvés. Après, on a fondé un foyer Kasher et Tahor Baruch Hashem en Israël. En fait, si jamais je m'étais marié avant, j'aurais été un marboule et un mzrob et j'aurais vu la finale de la Coupe de l'UEFA devant le Kefen le vendredi soir en train de dire Yamashiva et Roula Shamaim. Ma femme, elle aurait eu là-bas, la kippa. Vous connaissez, celle qui a la kippa et tout ça. Et tu donnes. Donc tu viens avec, moi, je connais, je ne sais pas, vous habitez à Sarcelles, mais venez à Toulouse une fois, vous allez voir. Tu connais le dessous de table là-bas, le truc pour mettre ton verre. Ouais. Le truc en broderie, là, il te le met sur la tête, la kippa et tout ça. Et ma femme, Khabibi, Hachem, il m'a sauvé la vie, je me suis séparé, on est parti, on s'est renforcé chacun, on n'a plus entendu parler l'un de l'autre et tout ça. On est revenu, on s'est marié avec Bigdusha Oftara, il y avait Gdol Israël qui était à notre mariage. Et Rabotaï, 6 ans plus tard, mon père, il était là encore. 6 mois, 6 ans. Les médecins du monde entier, ils disaient, c'est pas possible, on voit le taux qu'il a, il ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible une chose pareille, il ne peut pas vivre. On voit que d'après la science, il dit, on ne comprend pas le traitement que vous faites parallèlement, mais continuez votre traitement. Je dis, non, on connaît le traitement, c'est Rofé Rolam Israël, le patron de toutes les universités du monde, à Kadosh Baruch Hu. Rabotaï, on s'asseyait avec mon papa, à la Rachalam, j'ai eu le sroud d'être avec lui et de faire kibboudamim pendant ces 2 années où j'ai fini mes études aussi, c'est pour ça que je devais rester avec mon père. Je venais devant la porte de l'hôpital et on étudiait un sefer de Ravé Akovades, Ikarvout Lachem, comment s'attache Hachem. On étudiait l'Aïmouna, le Bitachon, on se renforçait. Et je vous dis, on arrivait, et mon père il me disait, il va nous dire que je vais mourir, mais c'est pas grave, je vais vivre. Parce que t'étudies à la yeshiva, j'ai un fils qui étudie à la yeshiva, je suis le plus grand milliardaire du monde. Je suis le plus grand milliardaire et il ne pourra rien m'arriver. Et Rabotaï, il a vécu pendant 6 ans, il a assisté à mon mariage, il a vu tous les gdolim d'Israël qui étaient présents, tous des grands rabbanim et tout ça. Et Rabotaï, jusqu'à la fin de sa vie, il a sanctifié dans Hachem. Il avait des douleurs innommables, il se levait pour aller à la tfila, pour aller dire le kaddish pour sa mère, qu'il avait perdu quelques temps avant. Il venait avec moi à la yeshiva. Mon père, il venait avec moi les deux dernières semaines de la yeshiva et même l'année d'avant. Il est venu avec moi passer quelques jours. Il a dit, et mon père, pourtant, il aime pas trop venir dans la yeshiva. Vous imaginez comment c'est la yeshiva. Il y a de la poussière là-bas, il y a des trucs et tout. Moi, mon papa, la vache à l'homme, il aimait bien aller à l'hôtel et tout ça, à l'ancienne et tout. C'est dur pour lui d'aller dans un endroit et ça avec de la poussière. Il a dit, si c'est pour faire la volonté d'Akadash Bokhu, pour être avec mon fils pour les dernières semaines avant qu'il se marie, je peux pas le laisser tout seul. Et il venait, je me rappelle, je suis allé le chercher à l'aéroport. J'étais tellement heureux, je l'ai serré dans mes bras et tout. Je vous dis ce soir, c'est un grand Ilun Shama pour lui parce que il m'a sauvé la vie, c'est ça, il m'a sauvé la vie, grâce à lui je suis là, grâce à cette épreuve. Parfois tu te dis, purée, j'ai une épreuve et ça, qu'est-ce que je vais devenir, et ça, cette épreuve t'a sauvé la vie, Khabibi. Hachem, il t'aime, il t'a envoyé une grosse gifle, il t'a pris la chose la plus précieuse, pourtant il t'a sauvé la vie. C'est grâce à cette épreuve que t'es là. Ne commence pas à te retourner vers Hachem, te dire, mais Hachem, pourquoi tu me fais ça? Hachem, il veut ton bien. Tu le vois pas dans l'absolu, dans l'immédiat, mais tu sais que tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour ton bien. Comme il dira bien qui va. Dis-moi, mon papa, à la vache à l'homme, il est venu à la yeshiva et tout ça. Et je vous dis, il est allé se coucher. Il était 4h du matin ou 5h. Le lendemain matin, moi, je me réveillais chez un qui sont à Rochaim ici, ils savent. Je me réveillais et je réveillais les gens, moi. Parce que toujours, j'ai voulu toujours essayer d'aider les gens. Alors, je les réveillais, des gifles, des coups de pied, des coups de boule, des coups de coude, des coups de sodo et tout ça. Toutes sortes, des chansons folkloriques en arabe, en chinois, en yiddish et tout ça. Toutes sortes de choses pour essayer de réveiller les gens. Et moi, j'ai dit, il faut pas que je réveille mon père parce qu'il a pas dormi de la nuit. Il faut faire attention à lui et tout ça. Il est très malade, il est très fatigué et il avait des douleurs dans tous les os et tout ça. Je ne peux pas le réveiller. Et Rabotaï, quelques temps plus tard, quand j'ai terminé de faire le tour, j'ai voulu aller au Beit HaMidrash. J'ai vu mon père, il était déjà levé avec son taïd et cette filine. Il n'avait pas dormi la nuit, il était présent. Et il est parti, après il a fait les sdarim. Il y avait des gars, c'était des batlanim et tout ça, il ne voulait pas venir au Seder et tout ça. Mon père, il venait, il n'avait pas la force d'étudier, il étudiait quand même. Et Rabotaï, il allait le Shabbat à la Beit HaKnesset Bemesirut Nefesh. Il mettait 20 minutes alors qu'on n'habite pas très loin. Il mettait 20 ou 25 minutes pour arriver jusqu'à là-bas. Il devait s'arrêter 4 fois pour se faire des massages dans les jambes tellement il avait des douleurs. Parfois il ne dormait pas de la nuit. Il avait des douleurs dans tout son corps, il se levait le matin, il mettait sa cravate, il mettait son costume, il allait à la Beth Knesset, à Kippour, le dernier Kippour de sa vie, quelque temps avant qu'il parte à la Vache Shalom, il y a 2 ans. Il est resté debout toute la journée. Toute la journée, il est resté debout comme un malard. Chacun qui passait dans la maison, il le renforçait, il lui disait des paroles d'Emouna, de Bitachon, il rigolait, il souriait avec lui. Il lui disait, qu'est-ce qui t'arrive, et tout ça, je peux t'aider. Quelqu'un qui souffre, parce qu'il peut partager la douleur des autres. Il dit, il a envie que le monde entier, il partage sa douleur, comme c'est marqué dans la Gemara. Sarab et Rabim, Khatsinechama, quand il y a une souffrance collective, alors c'est une moitié de consolation. Parce que l'homme, il a comme ça ses vertus négatives et obscures en lui. Mon père, non. Toujours il était affable, toujours il recevait les gens avec affabilité, il les encourageait, il leur disait de se renforcer. Et Rabotaï, combien de gens se sont renforcés grâce à lui? On a fait tchouva, on s'est renforcé. Des milliers de gens, ils ont fait des mitzvot pour lui. J'ai écrit ce sefer à sa mémoire. Les nuits de la première année dans laquelle il est parti, j'écrivais. J'étais esquinté. Le matin, je me levais pour aller au net. C'était 3 ou 4 heures du matin. Parfois, j'avais pas la force. Je suis pas en train de vous raconter ça pour faire le malin, parce que franchement, je vais jamais. Putain, je vais vous revoir, parce que chaque année, je viendrai vous voir. Mais pendant un an, je vais pas voir. Donc, vous allez pas me dire, ah ouais, t'es un bon et tout ça. Donc, je vous raconte pas ça, mais juste pour que vous puissiez prendre des cochotes de ça et que savoir qu'on a des forces surnaturelles. Si déjà papa qui avait pas de force, il a pu servir Hachem même dans les moments les plus obscurs et les plus difficiles de sa vie. Combien nous qui avons des forces, on doit savoir ça. Et parfois, c'était en plein milieu de la nuit, je me disais. Ce que je vais faire, là, je ne peux pas me lever. Là, je voyais le visage de mon père qui était présent le jour de Kippour, alors qu'il ne pouvait pas vivre. Je voyais le visage de mon père qui s'est levé à la yeshiva alors qu'il a dormi 1 heure dans la nuit. Je voyais le visage de mon père que toute la nuit, il a eu des douleurs dans tout son corps, et il s'est levé pour aller à la Beth Knesset. Et il monte 4 étages et il descend 4 étages. Je dis quoi, il y a mon papa, il est en face de moi et moi, je ne peux pas me lever. Je suis en bonne santé, je me lève comme un lion. Je le vois, il y a mon père, il est en face de moi, il faut que je me lève. C'est normal. Il dit Rabotaï, ça c'est Tzadik Bemunato Yechir. Le tzaddik par sa émouna, il vit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait que j'ai pas de force physique, j'ai pas de force naturelle. Les forces, c'est Akadosh Baruch Hu qui les donne. Kove Hashem, Yachlifu Koar. Si tu places ton espoir dans Akadosh Baruch Hu, Hashem il te réitère des forces. Si tu as décidé de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Hashem il te donnera des forces surnaturelles. C'est quoi Noten Layal Koar? Tout celui qui se fatigue, nous a dit Rav Yosef Ben Tata, notre maître, tout celui qui se fatigue pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Hashem il lui redonne des kochot. Celui qui ne se fatigue pas, il n'a pas besoin de force, donc lui, il n'aura pas de force d'Hachem. Il dit, toi, tant que tu te branches sur la force, tu dis, ouais, c'est moi, c'est ma force, ça, j'ai pas de force. Mais quand je sais que moi, je vais donner toutes mes forces à Kadosh Baruch Hu, je vais me battre, je vais m'investir, je vais faire tout ce que je peux, et là, à ce moment-là, tu sais que tu as des kohot surnaturelles qui te viennent, et ça, c'est les kohot de la Emouna et du Bitachon, et cette Emouna et ce Bitachon, on a dit que c'est la clé de la fin des temps, que Tzadik Bemunato Yechiyeh. Tzadik Bemunato Yechiyeh, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que toi, tu es avec ton bracelet rouge là-bas de Baba Mahmoud. Parce que c'est les musulmans qui mettent le bracelet rouge, parce que le rouge c'est la couleur du sang et de la mort. La Torah elle dit qu'il ne faut pas mettre du rouge et tout ça. S'il y en a qui ont du bracelet rouge, on peut les couper ensemble après. Après vous allez me donner aussi tous vos mails, comme ça je vous envoie chaque jour, parce que j'écris une petite pensée chaque jour ou chaque semaine. Ça dépend selon les gens qui sont là. Vous allez me donner votre mail et tout ça. Donc je vous disais, le cas c'est pas ça. La Emouna c'est pas de mettre un bracelet rouge, un fil rouge et tout ça. La Emouna c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est marqué Tzadik Bemunato Yechiyeh. C'est quoi Tzadik Bemunato Yechiyeh? Tzadik, celui qui est meilleur aujourd'hui que ce qu'il était hier. Ça s'appelle un tzaddik. Ve'emouna to'ichi. Alors là, sa emouna, elle est vérifiée. Parce que si jamais toi, tu as la emouna, alors tu dois être tzaddik. Parce que c'est quoi celui qui a l'emouna? C'est celui qui fait ce qu'il connaît. Donc tzaddik, c'est pas celui qui fait toute la Torah. C'est celui qui est meilleur aujourd'hui que ce qu'il était hier. Il est balchouva tous les jours de sa vie. Zahat Hashem, Moray Berbotaï, que par le srout de la Torah, que de chaque qu'on a étudié, que tous les malades, il arrive chez les mains, que tous ceux qui sont dans le monde de la vérité puissent s'élever et prier pour nous, pour le Machar Sitkenu, Bedrat Hashem, qu'on voit la reconstruction du Beth Amikdash, Bimera Bemenu. Je vais vous faire le petit kadish parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le prophète Sraïm il a dit qu'à la fin des shiurim, il faut se réunir et faire le kadish, yesh elamar, bam varach et tout ça. Il faut crier de tout notre cœur. Si on crie de tout notre cœur, on rapproche le Mashiach, Bezrat Hashem, alors on va faire de tout nos cœurs le kadish. Et Bezrat Hashem, tous ceux qui sont malades, ils vont avoir la réfoua, bisrouzé, Bezrat Hashem. N'oubliez pas, il y a le disque ici, il est présent. Il y a des cartons de livres là-bas pour ceux qui y veulent et tout ça, on peut s'arranger de ça pour les roubles et tout. Et il y a aussi le mail, vous me laissez votre mail, sinon après je vais me séparer de vous et je vais pleurer parce que je vous aime tellement que je ne peux pas.